Bonsoir à tous et bienvenue sur le cours de F6KGL. Donc ce soir, nous voyons le début de cette grande partie que j'ai appelée dans le cours radioélectricité, où il va y avoir 4 chapitres. Et en fait, on va voir les chapitres dans l'ordre à peu près d'une ligne de réception, c'est-à-dire qu'on va parler au départ des antennes, puis la semaine prochaine de tout ce qui est adaptation entre antenne et récepteur ou émetteur. Et puis ensuite, dans les deux derniers cours, on verra les synoptiques dans un premier temps, pour faire simple, et les types de modulation en dernier, donc dans le dernier chapitre. Voilà comment ça va s'organiser pour cette grande partie que j'ai appelée radioélectricité. Et donc on va commencer par propagation et antenne. Donc on a déjà un peu vu tout ça voilà, au fil de tout ce qu'on a déjà vu au cours des séances précédentes et aussi dans la partie réglementation. Donc premièrement la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde c'est la distance qui, dans son milieu de propagation, c'est la distance entre deux périodes. Hein, donc là, ici, j'ai une période complète, et cette onde-là, elle se propage dans son milieu de propagation. Son milieu de propagation, bah, c'est l'air ou le vide. Et dans ce cas, l'air ou le vide, la vitesse de propagation des ondes, c'est comme la vitesse de la lumière, c'est exactement pareil, c'est 300 000 km par seconde. Alors, c'est un tout petit chouille de moins que 300 000 km par seconde, mais tout le monde arrondit ça à 300 000 km par seconde. C'est 299, 592, je crois. Mais bon, voilà, on en est très proche et c'est légèrement en dessous. Et donc, la longueur d'onde, c'est, je regarde l'onde, je regarde l'onde, et dans son milieu de propagation, je regarde quel écart, quelle distance j'ai entre deux périodes. Alors ici, j'ai pris les maximums. Mais je peux prendre aussi la tension ici à zéro, ou la tension minimum, peu importe, ça ne change pas, c'est toujours la même longueur. Et donc, cette longueur d'onde va dépendre, évidemment, de la vitesse de propagation des ondes. Hein. Et si les ondes... Alors, les ondes ne peuvent pas aller plus vite que 300 000 km par seconde, ça c'est Einstein qui l'a dit. Par contre, elles peuvent aller moins vite, et on va voir, et notamment la semaine prochaine, quand on parlera des câbles coaxiaux, et là, ça va nettement, enfin, pas... La vitesse s'est réduite, mais, voilà, entre 80 et 50%, quoi, selon le type de câble qu'on va utiliser. Donc, on a une relation entre la longueur d'onde et la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de périodes que l'on a pendant une seconde. Voilà. Et donc, on a, d'autre part, le temps que dure une période. Sa fréquence et le temps que dure une période, on l'a déjà évoqué quand on a commencé à parler du courant alternatif. Souvenez-vous, chapitre 2. Il faut revenir beaucoup en arrière. Et on avait déjà vu cette relation entre la fréquence et le temps ici, le temps que dure une période. Et donc on a en plus une relation avec cette vitesse de propagation. Et lorsque la vitesse de propagation est là, donc c'est cette fameuse vélocité, on a 300 000, qu'est-ce qui se passe là ? On a 300 000 km par seconde, et eh bien, alors ça c'est la formule générale qui est là, eh bien on va avoir cette relation, c'est-à-dire que la longueur d'onde est égale à 300 divisé par la fréquence en mégahertz, alors longueur d'onde en mètres, fréquence en mégahertz, ou inversement, fréquence en mégahertz, longueur d'onde en mètres, donc la fréquence est 300 divisé par la longueur d'onde. Ici, je vous ai rajouté le petit triangle, comme pour les lois d'Ohm, donc vous avez le 300 au-dessus, et la fréquence en mégahertz, et la longueur d'onde en mètres. Évidemment, si la fréquence n'est pas en mégahertz, et la longueur d'onde n'est pas en mètres, il faut s'amuser à faire les conversions. Sinon, vous reprenez votre calculette et vous utilisez le système international, c'est-à-dire la fréquence, elle va être donnée en hertz, la longueur d'onde en mètres, ça marche. Et ici, la vitesse de propagation des ondes, n'oubliez pas que c'est dans ce cas-là du mètre seconde. Donc c'est 300 millions de mètres secondes. Enfin, c'est pas 300 000 kilomètres secondes. Le kilomètre n'est pas une unité du système international. C'est le mètre et la seconde qui sont des unités du système international. Juste pour, parce que je fallait que je casse ça quelque part, donc je l'ai casé là, sur l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est quoi? C'est le fait que un des objets, donc soit l'émetteur, soit le récepteur, les deux, hein, ça peut aussi fonctionner pour les deux, bouge et donc soit se rapproche ou au contraire s'éloigne. Et donc le fait que ces objets s'éloignent ou se rapprochent, du coup la vélocité relative, elle va changer. C'est-à-dire que si les objets s'éloignent, et bien du coup la vélocité ici n'est plus de 300 000 km par seconde, elle va augmenter. Et inversement, quand ils se rapprochent, cette vélocité va diminuer. Et si, alors évidemment, si c'est quelques mètres par seconde, on s'en fout un petit peu. Mais si c'est une vitesse, notamment pour les satellites où les vitesses sont très élevées, eh bien, on va avoir une incidence quand même sur cette vitesse de propagation qui ne va plus être de 300 000 km par seconde, mais qui va être de, par exemple, 295 000 km par seconde, ou 305 000 km par seconde. Si bien que on va avoir, comme ça, une modification, finalement, de la fréquence. C'est-à-dire que l'émetteur ou le récepteur, ils vont toujours avoir les mêmes fréquences, mais par contre, comme la vitesse de propagation, elle bouge, eh bien, ça va faire bouger, du coup, la fréquence. Typiquement, ça, et ça, intuitivement, on le sent bien, c'est avec le son. Vous avez sûrement remarqué que quand un véhicule se rapproche de vous, il a une fréquence aiguë, enfin tout au moins le bruit du moteur a une fréquence plus aiguë que lorsqu'il s'éloigne. Je rappelle, alors je fais un bruitage un peu comme les gosses, quand une voiture passe, ça fait... Tout le monde se souvient de ça. Et donc là, d'abord la voiture, elle se rapproche, et donc la vitesse de propagation, elle est plus réduite, ok. Et après, elle s'éloigne, et donc la vitesse de propagation, augmente. Et si bien que lorsque les stations se rapprochent, comme la vitesse de propagation, elle est réduite, eh bien, la fréquence, naturellement, va augmenter. Puisque ce 300-là devient 299. Voilà. Et inversement, quand la fréquence diminue, lorsque les stations se rapprochent, ou plus ou moins, ou lorsque, s'éloignent, donc c'est l'effet inverse. Rappelez-vous le bruit de la voiture sur l'autoroute. Ça marche bien et ça permet comme ça de se rappeler dans quel sens ça fonctionne. Voilà. Alors donc c'est Monsieur Doppler qui... C'est l'effet Doppler, donc c'est Monsieur Doppler qui lui avait remarqué que c'était la couleur des étoiles qui changeait. Et donc, voilà, et ces histoires de couleurs et d'étoiles doubles, En fait, c'est la vitesse de la lumière qui change pour l'observateur, et donc le scintillement n'est pas de même couleur, puisque du coup ça a une incidence aussi sur la couleur des étoiles. Et ça, ça a été découvert par Doppler en 1846, donc c'est pas du tout lié à la radio, hein. Alors c'est lié un peu à la radio, puisque les ondes lumineuses sont des ondes radio particulières, mais voilà, en tout cas, c'est pas lié au trafic satellite notamment. Donc ici, des questions simples. Première question, quelle est la longueur d'onde d'une fréquence de 14,1 MHz? Évidemment, on fait 300 divisé par 14,1. Je ne sors pas, j'ai pas sorti ma calculette là, mais vous allez me faire confiance, et donc ça va vous donner 21,7, c'est pas très compliqué. En revanche, là, c'est un peu plus compliqué, c'est quelle est la fréquence dont la longueur d'onde est de 3 cm. Donc la première chose, c'est transformer ces 3 cm en mètres. Une fois qu'on a fait ça, donc on fait 300 divisé par 0,03, ça donne 10 000, et évidemment, ce sont des mégahertz, et la réponse attendue, bien évidemment, va être en gigahertz. Ici, je vous ai c'est un peu de rappel comment ça fonctionne, et visuellement, on comprend mieux comment ça se passe. Ici, donc, j'ai des gouttes d'eau qui tombent dans une mare à un rythme régulier, si bien qu'ici, ça me fait des ronds concentriques, voilà, qui se déplacent au fur et à mesure, et qui s'éloigne de plus en plus de ma mare. Et quand on parle de vitesse de propagation, c'est en fait mes cercles concentriques, ils se déplacent dans ma mare, comme ça, par rapport à mon point ici où j'ai ma gouttelette qui tombe. Et la fréquence, la longueur d'onde ici, ça va être entre deux maximum, par exemple, de mes petits ronds dans l'eau. Hein, donc, voilà. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive ici au bord de la mare? Eh bien, les ondes ici, elles se réfléchissent sur le bord et elles reviennent vers l'intérieur. Là, on l'en voit un petit peu là, où elles reviennent un peu vers l'intérieur. Voilà. Et c'est typiquement ce qui va se passer avec nos ondes radio. Évidemment, ce n'est pas, c'est pas du liquide, hein. Mais le phénomène va être un petit peu équivalent. Alors ce qui est très important aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ici que la force qui va se déplacer vers l'extérieur, comme ça, mais en revanche, les molécules d'eau elles-mêmes, elles vont rester en place. C'est exactement ce qui se passe, nous, avec nos petits photons. C'est-à-dire que les photons, ils ne vont pas à 300 000 km par seconde, mais par contre, c'est leur vibration, leur agitation, qui va à 300 000 km par seconde. Et donc là, ils vont aller, les photons, ils vont se déplacer un petit peu, mais pas beaucoup, et en revanche, c'est leur agitation qui va être envoyée très loin. Et ce qui va faire bouger aussi les électrons qui vont être captés par l'antenne et qui vont arriver sur le récepteur. Et à l'émission, c'est encore une fois des électrons qui vont être envoyés, qui vont générer des champs électromagnétiques envoyés dans le milieu de propagation jusqu'à temps que ça touche un milieu conducteur, et dans ce cas-là, le système va revenir, va faire quelque chose d'inverse, c'est-à-dire que le champ électromagnétique va se transformer en courant électrique. Voilà. Donc, ça, c'est le principe général des ondes radio. En fait, c'est plus compliqué que ça, et on va s'apercevoir que les ondes radioélectriques peuvent se propager de différentes façons selon leur fréquence. C'est ça qui est important, c'est selon leur fréquence. Les ondes directes, Donc avec des ondes directes, ben les deux antennes sont en vue l'une de l'autre, ça marche à peu près sur toutes les fréquences. Ça c'est valable que ce soit des fréquences très hautes ou très basses. À partir où les, du moment où les deux antennes se voient, ben, y a pas de raison que la communication ne puisse pas se faire. Voilà, donc ça, ce mode de propagation, ça fonctionne tout le temps. Les ondes de sol, elles ont une particularité, c'est qu'elles vont suivre le relief terrestre. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la Terre est ronde. Et donc, finalement, on est limité par l'horizon. Hein? Et donc, si on veut aller plus loin, eh bien, il faut que les ondes suivent le relief terrestre. Et donc, c'est ce que l'on appelle des ondes de sol. Alors, plus précisément, les ondes, elles vont se propager entre la Terre et une couche de la ionosphère dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelle la couche D. Et donc, ça va se balader entre les deux. Ça va, enfin, les ondes de sol, c'est essentiellement des ondes de grande longueur. Ça fonctionne grosso modo jusqu'à 1 méga, de quelques kilohertz à 1 mégahertz. Après, ça ne marche plus. Et puis aussi, on a une catégorie qui s'appelle les ondes réfléchies, qui sont très particulières, parce que celles-là, elles ne se réfléchissent pas sur la couche D, qui est assez basse, mais sur les hautes couches de la ionosphère. Et alors, ça marche plus ou moins bien, parce que la ionosphère, elle est plus ou moins ionisée, hein, la ionosphère, d'où son nom, elle est ionisée. Et le problème, c'est que c'est quand on fonctionne en ondes réfléchies, on est obligé de passer par la couche D, et la couche D, elle a une tendance à absorber les ondes. Donc il ne faut pas que la couche D soit trop absorbante, sinon ça ne marche pas, et il faut que ce soit suffisamment ionisé pour que ça se réfléchisse sur les hautes couches de la ionosphère. Et ce sont les couches qu'on appelle E et F. Et une fois que la couche E ou F a renvoyé l'onde sur la Terre, eh bien, soit elle est captée par l'antenne, ou alors elle repart encore pour un autre rebond. Et donc, compte tenu de la courbure de la Terre, eh bien, une onde, si on vise l'horizon, eh bien, en fait, on va pouvoir faire un bond de 4000 km au maximum. Compte tenu de la hauteur de réflexion sur la couche F de la ionosphère. Et donc il y a tout des tas de calculs de prévisions de propagation comme ça qui sont faites, et ces prévisions, elles sont basées sur quelque chose qui est très important, qui est l'activité solaire. En ce moment, elle est relativement basse, elle commence à remonter, mais elle a été très 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 basse pendant très très longtemps. Le dernier cycle solaire a été très faible. On va en parler un peu tout à l'heure. Et cette activité solaire, comme elle vient du Soleil, évidemment, l'activité solaire, elle n'a lieu que le jour. La nuit, il n'y a pas de Soleil, donc pas de flux, et donc pas de reconstitution de la ionosphère. Donc tout va dépendre aussi de l'éclairement de la Terre par le Soleil, notamment, différence entre l'hiver et l'été. Donc là, je vous ai fait un petit schéma relativement simple qui récapitule tout ça. Donc là, ici, on a trois antennes. Hein, trois antennes. Un émetteur et ici, deux récepteurs. Ici, je suis sur un point haut ici. Donc là, je vais pouvoir arroser tranquillement sur tout ce qui se passe autour. Donc là, j'ai une antenne qui est en vue. Donc là, c'est une onde directe. Ça marche tout le temps. Ici, c'est aussi un émetteur, et ici, là, j'ai une colline entre les deux. Les deux antennes ne se voient pas, mais pourtant ça va fonctionner parce que ici, ça marche en onde de sol. Alors ici, j'aurais dû montrer ici que l'onde, en fait, elle est coincée ici entre le relief, ici la Terre, et ici la couche D, qui sert en fait d'absorption, et donc l'onde va se balader ici entre la Terre et ma couche D de la ionosphère. pour arriver ici à ma deuxième antenne. Enfin, troisième, et donc ça, ce sont les ondes de sol. Et vous avez aussi, alors, ce que les Anglais appellent des sky waves, donc des ondes de ciel. Eh bien, nous, en français, on a appelé ça des ondes réfléchies. Mais je pense que les Canadiens, eux, ils appellent ça aussi des ondes de ciel. Ils ont traduit ça de la même manière. Et donc, les ondes de ciel, elles arrivent, elles partent de l'antenne. Alors évidemment, là, j'ai visé un peu haut, mais je peux viser aussi beaucoup plus l'horizon, et dans ce cas-là, je vais beaucoup plus loin. Mais si je vise, puisque là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de viser ici la station qui est là, donc je vise un peu plus haut, je traverse la couche D, où je vais avoir une atténuation, une absorption, puis après, la couche E, qui va commencer à, alors peut-être pas à réfléchir, mais au moins à réfracter. La réfraction, je rappelle, c'est quand vous changez de milieu, vous avez, les ondes se courbent. Typiquement, c'est le bâton que vous mettez dans une piscine, que vous mettez de biais, et vous avez l'impression que votre bâton, votre manche à balai est cassé, il est coupé en deux. C'est faux, hein, évidemment, tout le monde le sait. Ça, c'est ce qu'on appelle la réfraction. Et puis, à un moment, la couche, elle est tellement dure, là, que l'onde, finalement, elle se réfléchit. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle le mirage. Hein, les mirages dans le désert, c'est parce que le sol est très chaud, et que donc vous avez ce même cas de réfraction et même réflexion lorsque la densité n'est plus la même, parce que du sol chaud, de l'air chaud n'a pas la même densité que de l'air tiède. Voilà, donc on a le même phénomène. Et donc on a quand même une partie de l'émission qui n'est pas réfléchie et qui donc sort de la ionosphère. Et qui, évidemment, cette partie-là, elle n'est pas réfléchie, et donc elle est perdue, peut-être récupérée par des extraterrestres dans quelques milliers d'années, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, donc dites pas trop de conneries quand vous prenez le micro. Et donc, on a une partie qui redescend sur Terre, qui est encore une fois réfractée, et qui arrive ici, sur l'antenne. Et quand on veut aller plus loin, eh bien, en fait, tout simplement, l'onde ici arrive sur le sol, et elle est réfléchie, elle est repartie. Et évidemment, tout va dépendre à l'endroit où vous touchez le sol. Parce que si c'est un coin bien réflecteur, tout va bien. Si c'est un coin plutôt absorbant, c'est pas bon, et du coup, votre correspondant, il y a peu de chances que vous puissiez le contacter. Alors, la propagation par onde de sol se fait de la même façon que n'importe quelle fréquence décamétrique. Alors non, l'onde de sol, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne va fonctionner grosso modo au début des ondes, des très grandes ondes, donc 9 kHz, jusqu'à 1 MHz à peu près. Au-delà de 1 MHz, on peut dire que les ondes réfléchies ne fonctionnent, les ondes de sol ne fonctionnent plus. Voilà. Ce qui va fonctionner uniquement, ce sont les ondes directes et les ondes réfléchies. Alors, vous pouvez aussi avoir des ondes. Alors, c'est des trucs un peu spéciaux. Typiquement, lorsque vous avez c'est ce qu'on appelle je crois que c'est du raincast, je ne suis pas certain. Mais c'est en fait, on vise des nuages. Et dans les nuages, le principe du nuage, c'est que vous avez des différences de température importantes dans l'air et donc des différences de concentration d'air importantes. Et donc ça vous fait de la réfraction. Et le fait de viser un nuage, eh bien ça fait réfracter les ondes et elles sont tellement réfractées qu'elles reviennent sur Terre. Donc on a l'impression que ce sont des ondes de sol, parce qu'en fait elles ne montent pas très haut. Hein. Un nuage, c'est à 10 km d'altitude maximum. Donc c'est pas aussi haut que nos couches E et F qui sont beaucoup plus hautes en altitude. Donc les distances sont beaucoup plus courtes. Mais par contre, c'est ce qu'on a, ça s'appelle du rainscatting, je crois, pas sûr. Mais voilà, et vous avez aussi ce qu'on appelle des propagations troposphériques, je crois. Enfin voilà, vous en avez dans tous les différents types de propagations un peu particuliers qui ne marchent pas tout le temps. Voilà, ce qui marche tout le temps, ce sont les ondes directes. Dites-vous ça bien. Les ondes réfléchies, les ondes de sol, ça marche jusqu'à une certaine fréquence, grosso modo 1 méga. Et les ondes réfléchies, ben, ça marche quand ça veut. Et en ce moment, pas trop. Ici, je vous ai mis un petit récap de tous les types d'ondes. Donc, quand on parle des ondes, nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les ondes, ce qui va nous intéresser, ce sont les ondes radio. Donc, elles vont grosso modo de quelques dizaines de hertz à grosso modo 300 mégas. Ok ? Ça, ce sont des ondes radio. Au-delà de 300 mégas, on ne peut plus parler d'ondes radio puisque on a des dégagements de photons. Et donc, au-delà de 300 mégas, on est plutôt dans le milieu des infrarouges. Des infrarouges qu'on appelle des infrarouges lointains au départ. Mais évidemment, plus on monte en fréquence, plus on se rapproche du spectre visible. Et donc, plus on se rapproche des infrarouges classiques que vous utilisez dans vos télécommandes et autres appareils comme ça. Donc après, vous avez... Après les fréquences visibles, vous avez les UV, et encore une fois, une limite, c'est-à-dire que les UV, vous en avez une partie qui sont dans les fréquences optiques, et puis les fameux UVB dont on vous rebat les oreilles, ceux-là, ce sont des rayonnements ionisants, c'est-à-dire que ce ne sont plus des fréquences optiques, c'est plus de la lumière, c'est autre chose, c'est un rayonnement ionisant. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Quand on parle d'UV, il y a les UVA qui sont des fréquences optiques et les UVB qui sont les fréquences rayonnement ionisant. Et puis après, bah, vous avez les rayons X, les rayons gamma, les rayons cosmiques, etc. Plus on monte en fréquence, et là on est vraiment au-delà du monde de la radio. Le monde de la radio, c'est vraiment ce petit bout-là. Avec ici la propagation par onde de sol jusqu'à grosso modo 1 méga, la propagation par onde réfléchie qui va grosso modo, allez, ça prend le relais aux alentours d'un méga et ça va jusqu'à 30 mégas, jusqu'à 100 mégas, ça marche, même 200 mégas, allez, je vous le fais à 200 mégas, pour des ondes réfléchies. Alors, effectivement, un contact entre Paris et Marseille, sur le 40 mètres, et typiquement sur le 40 mètres, ça marche en onde réfléchie. Ça ne marche pas en onde de sol. Ni en onde directe, évidemment. Ça marche en onde réfléchie. Et d'ailleurs, pour Marseille, on a plutôt tendance à viser comme ça un peu haut, surtout pas l'horizon, parce que sinon on va trop loin. On va à Alger. C'est pas ce qu'on veut faire quand on est à Paris. Même plus loin qu'Alger, d'ailleurs. Hein, 4000 km, on doit tomber au plein Sahara. Là. Donc, vaut mieux tirer un peu plus en hauteur pour être certain que ça retombe bien à Marseille. Quand on est effectivement sur 40 mètres, on est dans ce type de propagation. Donc là, mes ondes réfléchies, c'est grosso modo de 1 méga à, allez, on va dire 200 mégas maximum. On a quelquefois des petites propagations réfléchies de très courte durée et sur une zone très réduite. Mais voilà, on peut aller jusqu'à 200 mégas. Voilà. Et puis au-delà, grosso modo, de 50 mégas, on va fonctionner essentiellement par onde directe. C'est pour ça que en 144, alors vous pouvez faire des contacts un peu plus lointains en 144 parce que ça va utiliser ça va utiliser le fait que l'air à différentes températures et donc à différentes températures à différentes concentrations et donc on va avoir cet effet de réfraction de la même manière qu'en marquant, comment dire, que sur une couche E et F. Et quelquefois, en 144, on a une ionisation de la couche E qui est très dense, et donc les ondes, elles vont se réfléchir sur ces couches E, mais ces couches E sont, c'est pas uniforme, donc c'est que des petits points, et donc on a comme ça, bah, coup de chance, il y a des ouvertures, et c'est ce qu'on appelle des sporadiques E. Sporadiques parce que c'est très, très peu souvent, c'est sporadique. Hein. Et donc on appelle ça des, voilà, on appelle ça des sporadiques E. Et les sporadiques E, ça va monter jusqu'à 200 mégas maximum. Ici, je vous ai mis les altitudes. Donc la couche D, elle est grosso modo de 50 km d'altitude à 90 km, et les couches E et F de 90 à 650. Ici, j'ai fait un chapitre complet sur la propagation des ondes en ondes réfléchies. Peu de questions à l'examen, mais il y en a quelques-unes quand même. Premièrement, la ionosphère, c'est la partie la plus élevée de l'atmosphère terrestre. Hein, je rappelle, l'atmosphère, c'est tout ça. Alors, j'aurais dû zoomer. Je vais vous zoomer ça. Mon zoom, il est où? Voilà. Ça, c'est important parce que c'est ce qui va déterminer le fonctionnement de notre système d'ondes réfléchies. Le principe, c'est que c'est le Soleil qui va ioniser. Alors, qu'est-ce que c'est que des ions, déjà? Qu'est-ce que c'est que l'ionisation? C'est le fait que des gaz, on est retiré des électrons. Donc, on va avoir des gaz qu'on appelle ionisés, notamment de l'hydrogène, et d'autre part, des électrons libres. Et ça, c'est ce qu'on appelle le plasma. Ce plasma, plus on monte en altitude, plus on se rapproche de... moins il est protégé par le plasma qu'il y a au-dessus, et donc plus il est... plus il va recevoir d'activité solaire, du soleil. Et donc, le Soleil va avoir une activité, notamment avec des ultraviolets, mais aussi, dès qu'il va y avoir des explosions dans le Soleil, il va y avoir de la matière qui va être éjectée et qui va arriver sur Terre, grosso modo, un jour ou deux après. C'est cette matière qui va faire que les électrons vont se séparer des atomes de gaz, et donc générer ce fameux plasma. Et plus on monte en altitude, et plus l'activité solaire est importante, et plus on va avoir d'électrons libres. Ici, c'est la densité d'électrons libres par centimètre cube. Donc la centimètre cube, c'est tout petit, et vous pouvez avoir, dans certains cas, jusqu'à 1 million d'électrons libres par centimètre cube. Donc c'est tout simplement énorme. Et si vous avez 1 million d'électrons libres par centimètre cube, vous avez de l'autre côté 1 million d'atomes de gaz auxquels il manque un électron. Voilà, donc c'est un peu, c'est assez, assez important. Et alors évidemment, c'est dans les cas extrêmes. En ce moment, on est une activité faible, donc on va plutôt se retrouver dans ces eaux-là à 10 puissance 4, mais quand même, 10 000 électrons libres par centimètre cube. Hein, et donc, plus... Alors donc, mon atmosphère... C'est donc toute la, c'est là où il y a tout, enfin toutes les molécules de gaz. Toutes les molécules de gaz sont dans l'atmosphère. Au-delà, quand il n'y a plus de molécules de gaz, on arrive dans la magnétosphère. Magnétosphère, c'est là où on a le champ magnétique terrestre qui nous protège. Et donc, voilà, vous avez cette différence-là. Cette atmosphère, elle va grosso modo, son épaisseur, elle varie en fonction de la magnétosphère, grosso modo entre 200 et 650 km d'altitude. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez variable selon la saison, selon l'activité du soleil, etc. Et évidemment, plus on a une altitude de réflexion, enfin une altitude de cette couche F importante, plus les contacts, enfin plus les bonds sont grands. Évidemment, on diminue la distance du bond si on est ici avec une atmosphère, une ionosphère, dont le maximum est à 200 km d'altitude. Okay. Donc au-delà des 650 km, il n'y a plus de gaz. Donc, ça ne peut plus être ionisé. Et en fait, la ionisation, elle va se faire de manière, pas constante, mais par palier. Et donc, alors, les trois premières couches de l'atmosphère, troposphère, c'est là, c'est les nuages. Donc c'est 15 km d'altitude maximum, donc l'altitude de croisière des avions, maximum. Voilà, donc ça c'est la troposphère. Aucune incidence sur la propagation, à part peut-être des incidences météorologiques, parce que évidemment si l'onde elle tombe sur une zone où il y a des orages, eh bien elle est un petit peu perturbée. Hein. Au-dessus, il y a deux couches, mais qui n'ont pas de particularité sur la propagation, qui s'appelle la stratosphère et la mésosphère. Elles portent les doux noms de donc troposphère A, stratosphère B, mésosphère C. Et ensuite, on a la ionosphère avec trois couches, la couche D, la couche E et la couche F. Pourquoi couche ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des augmentations de densité d'électrons libres par niveau. Donc ici, je vous ai mis en rouge le nombre d'électrons libres la nuit, donc en fin de nuit, lorsqu'il n'y a pas eu de ionisation depuis longtemps. Et ici, en fin de journée, en bleu, quand tout va bien. Et donc là, on voit qu'il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux, et donc ça augmente de manière comme ça par strate. Et selon, après, la fréquence de l'onde, eh bien, elle va se réfléchir soit sur la couche D, soit sur la couche E, soit sur la couche F. Alors la couche D, en règle générale d'ailleurs, elle ne réfléchit pas, elle va atténuer. Donc on a intérêt à ce que le nombre d'électrons de la couche D soit le plus réduit possible. Et inversement, celui de la couche E et de la couche F, faut mieux qu'ils soient les plus élevés possibles. Alors, juste un truc, c'est que la nuit, les couches F1 et la couche F, enfin plus exactement, pendant la journée, la couche F se scinde en deux. Une couche qu'on appelle F1 et une couche qu'on appelle F2. Donc F1 et F2. F2 étant la plus élevée. Et la nuit, bah, ces deux couches se rassemblent et il n'y a plus qu'un seul, un seul bond ici, qui est la couche F, puisque F1 et F2 se sont rassemblés. Voilà. C'est bien, faut avoir ça en tête quand on étudie. Et donc quand on parle de hauteur, alors ce sont des hauteurs moyennes, hein. Donc c'est variable selon la saison, selon l'activité solaire, etc. La couche D, c'est entre 50 et 90 km, la couche E entre 90 et 130, et les couches F1 et F2, c'est entre 130 et 650, 650 étant vraiment le maximum. En règle générale, c'est plutôt aux alentours de 400 km d'altitude. 400 km d'altitude, c'est pas si élevé que ça. Hein. Je rappelle, l'ISS, c'est à peu près l'ISS se balade à 400 km d'altitude. Donc c'est pas. L'ISS se balade dans la ionosphère. Donc il y a du gaz. C'est pas dans la magnétosphère. D'ailleurs, difficilement le faire dans la magnétosphère, puisque dans ce cas-là, on aurait tous les instruments de bord qui risqueraient d'être déréglés. Voilà. Pas de questions, à part sur le nom des couches, pas de questions à l'examen. Enfin, le nom, donc c'est D, E et F. Donc un circuit, bah évidemment, maintenant qu'on a parlé de la différence ionisation, évidemment la ionisation, elle n'est pas la même partout sur le globe, et selon le contact que vous allez faire, et bah, l'onde va suivre un circuit, et donc il faut que dans tout le circuit, le système puisse réfléchir l'onde, puisque évidemment ça, elle peut pas, l'onde elle peut pas changer de fréquence en cours de route. Donc il faut trouver un passage qui permet de faire en sorte que l'onde puisse bien se réfléchir sur l'ensemble du parcours qu'on appelle un circuit. Et évidemment, comme ces conditions de propagation elles changent pendant tout le parcours, et ben il faut trouver par où, sur quelle fréquence utiliser pour que le circuit puisse se faire. Et évidemment, le lieu de réflexion de l'onde sur la Terre va être primordial dans ce cas-là. Et donc, on va privilégier une atténuation sur la mer, parce que la mer étant salée, eh bien, c'est un très bon conducteur et donc un très bon réflecteur. En revanche, on évitera des zones, par exemple les zones urbaines, où là, on va avoir des atténuations qui vont être supérieures à 10 décibels. Donc, c'est-à-dire que vous perdez 10%. Il ne vous reste que 10% de la puissance lorsque l'onde aura réfléchi en zone urbaine. Sur un champ, c'est un peu moins catastrophique, 7 dB, enfin quand même. Et évidemment, les conditions météorologiques, on en parlait tout à l'heure, lorsque l'onde va réfléchir sur une zone où il y a un orage, bah évidemment, ça va être un peu compliqué parce que l'orage, elle va pas complètement bousiller votre onde et donc votre correspondant aura un trou à ce moment-là. Et donc la ionisation, elle va avoir des impacts différents selon la fréquence et l'heure, mais aussi selon la saison. C'est-à-dire qu'en hiver, évidemment, la ionisation est plus difficile puisque le jour est plus court. Voilà. Inversement, l'hémisphère sud, peut-être, ça peut être intéressant parce que après, faut calculer tout ça et ça tombe bien, il y a des logiciels qui permettent d'anticiper, de prévoir tout ça. Alors, question, en onde directe avec le même type d'antenne, notre onde fera la même distance que ce soit sur 28 mégas ou 7 mégas. Ah bah oui, elle va faire la même distance. Hein. Alors attendez, la même distance, ça veut dire quoi? Elle va faire la même distance, mais par contre, elle sera plus ou moins atténuée. Je ne sais pas si c'est ça la question. Enfin, en tout cas, votre correspondant, il va être au même endroit. Donc l'onde, elle va parcourir la même distance, mais par contre, elle va être atténuée de manière différente. C'est ça qui est important. Et donc peut-être que sur 28 mégas, bah, l'atténuation sera trop importante et votre correspondant ne pourra pas vous décoder. Et c'est peut-être ça votre sujet. Hein, donc la distance est la même, après c'est le problème d'atténuation. Donc à cause de cette ionisation, et ça c'est important parce qu'il y a des questions d'examen là-dessus, une fois qu'on a bien compris ce système-là, à cause de la ionisation, un contact de jour est plus facilement réalisable qu'un contact avec un parcours de nuit. Ça semble bête, mais bon, voilà. Si bien que, et de même, les bandes basses, c'est-à-dire inférieures à 10 mégas, se réfléchissent moins haut dans la ionosphère, c'est-à-dire qu'elles vont se réfléchir, je reviens sur mon schéma là, inférieures à 10 mégas, elles vont se réfléchir plutôt ici, et les fréquences supérieures vont plutôt se réfléchir au-delà. Ce qui veut dire que pour des fréquences basses, eh bien le saut va être plus court que sur des fréquences hautes, qui vont plutôt se réfléchir sur des fréquences plus élevées. Sauf que s'il n'y a pas de ionisation, bah du coup, ces fréquences hautes ne pourront pas aller aussi loin. Voilà, et quand on parle des bandes basses, donc inférieures à 10 mégas, elles restent plus longtemps ionisées que celles pour les donc ces couches, pardon, je reviens en arrière, ces couches ici restent plus longtemps ionisées que les couches supérieures ici. Hein, c'est ce qu'on a vu ici quand on parle ici là de ces ce regroupement là de ces deux couches, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que la couche F2 là va redescendre et donc va réduire la distance de propagation, et cette couche F là reste plus longtemps ionisée que la couche F2. Voilà. Une fois qu'on a compris tout ça, c'est un peu compliqué, mais on arrive à mieux comprendre ce que l'on fait. Donc une fois qu'on a bien positionné ça, ça implique quoi ? Ça veut dire que lorsque vous voulez contacter des stations qui sont à l'est, par exemple pour nous à Paris, si on veut contacter l'Asie, eh bien on va faire de préférence les contacts le matin, puisque le soleil est déjà levé depuis longtemps en Asie. En revanche, lorsque l'on veut contacter les Amériques, on va plutôt le faire en fin de journée, puisque aux États-Unis, au Canada, eh bien, c'est en fin de journée à Paris que le soleil est aussi au zénith en Amérique. Voilà. Et donc selon les pays qu'on veut contacter, eh bien, on va soit privilégier des heures matinales ou des heures en fin de journée. Alors, oui, par exemple, de Lyon sur 28, si je n'arrive pas à aller plus loin que Mâcon en onde directe, ça n'ira pas vraiment mieux sur 7 ou 14. Alors, 7 ou 14 en onde directe, c'est certain, ça ne va pas marcher. Le 7 mégas de mémoire, ça doit faire 10 km en onde directe. Donc, c'est même pas la peine, c'est vraiment du contact très local. Et même chose pour le 14 mégas. Hein, quand on arrive à faire, en onde de sol, pardon, les ondes de sol sur 7 et 14 mégas, c'est 10 km. Donc c'est pas l'idéal. Éventuellement en onde directe, mais enfin en onde directe, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais enfin, Mâcon, si vous êtes sur les coteaux, ça va. Si vous êtes en bord de Saône, ça va être un peu compliqué, hein, je pense. Enfin voilà. Là, je vous ai parlé tout à l'heure des prévisions de propagation. Il y a un site incontournable qui s'appelle VOACAP qui permet en ligne de déterminer quel pays on peut contacter et avec quelle chance on peut contacter le pays. Donc, je vais vous montrer ce beau logiciel, Firefox, toc, ici, donc il me demande, je ne sais pas si vous le voyez, mais il me demande d'accéder à la localisation, donc j'autorise, comme ça il va me calculer mon autorité, voilà, donc ici, rouge, c'est là d'où j'émets, et la bleue, c'est mon correspondant, là j'essaye de, voilà, moi je dis, je veux faire le Brésil, donc je prends ici, voilà, je veux faire le Brésil. Vous voyez ici, là, alors ça, en gris, là, c'est la nuit. Donc ça tombe bien, là, vous regardez dehors, il fait nuit. Depuis pas longtemps, mais il fait nuit. Ici, donc, c'est le trajet que va parcourir l'onde, avec ici le point milieu. Ici, en pointillé, c'est si vous voulez faire ce qu'on appelle le long pass, c'est-à-dire que vous pouvez contacter le Brésil en dirigeant votre antenne dans cette direction-là, mais aussi en dirigeant l'antenne complètement à l'envers, à 180 degrés, et dans ce cas-là, je vais passer par la Russie, puis par le Pacifique, et arriver par derrière, par là. D'accord ? La longueur... Donc ça, c'est mon QRA locator, hein, JN18FU, et ça c'est le QRA locator ici de mon de mon correspondant. Il y a un endroit où il y avait les distances que je ne vois plus. Peu importe. Ici, je détermine le type de matériel que j'ai. Donc là, par défaut, j'ai 1500 watts en morse. J'avoue, je n'ai pas ça ici. Mais par contre, là, je suis en SSB et j'ai 100 watts. Voilà. L'antenne, je peux définir mon antenne, etc., etc. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est cette icône, la prop wheel, qui va me donner, en fonction des conditions de ionisation que le logiciel a récupéré au préalable, il va me donner les possibilités de contact. Donc je vois qu'en SSB avec 100 watts, ici il est 21h, pas tout à fait, il est plutôt 20h là, et donc je serai plutôt ici. Et donc je vois que j'ai des... Ici ce sont les bandes, hein, vous avez toutes les bandes, et ici vous avez le taux de probabilité, donc vert 33%, jaune 57%, 52% et 28%. Donc ça va être plutôt sur les bandes 15 mètres ou 17 mètres que je vais pouvoir contacter le Brésil, mais avec seulement 57% de chance. Donc pas beaucoup. Voilà. Et si j'augmente ma puissance, évidemment, là, si je mets 1500 watts, vous allez voir, ça va être nettement meilleur. Voilà, j'ai un peu plus de chance. Ça devient un peu plus marron, donc c'est un peu mieux. Je peux changer ici et faire l'Europe. Là, par exemple, je sais pas, la Turquie, tiens. Allez hop, l'Algérie. Je fais prop wheel, et vous allez voir, là, j'ai toutes les chances de contacter l'Algérie, mais plutôt sur des bandes basses. Alors que tout à l'heure, j'étais sur des bandes hautes pour le Brésil. Voilà, donc vous avez, voilà. C'est un produit qui est assez intéressant. Après, est-ce qu'il est fiable à 100%? Non. Mais voilà. C'est intéressant de savoir que ça existe. Je reviens sur mon PDF. Alors, il y a une très forte corrélation entre l'activité solaire. Alors ça se mesure en watts par hertz par mètre carré. Et ça, vous l'avez, vous cherchez activité solaire ou sunspot sur Internet. Et vous avez, d'ailleurs, il y a des sites Internet qui donnent cette information en continu. L'activité solaire, parce qu'il y a des tas de stations sur la Terre qui mesurent cette activité solaire. Donc vous avez cette activité solaire, donc qui est le flux solaire, et ce flux solaire est directement fonction du nombre de tâches. Ce nombre de tâches, c'est en fait des tâches solaires. Je vais vous en montrer. Voilà, ça ce sont des tâches solaires. Ces petits points là, ce sont des tâches solaires. Alors il y a des points qui sont lumineux et d'autres qui sont noirs. Ça ce sont les pires, parce que là quand c'est noir comme ça, c'est qu'à l'intérieur il y a une forte activité, et toute l'activité est concentrée à l'intérieur. Donc ça, ces deux tâches solaires sont très importantes. Celles-là, les lumineuses ne comptent pas vraiment. Ce qui m'importe, moi, c'est les tâches noires. Et donc ces tâches noires, ce sont des tâches solaires. Et donc c'est un reflet de l'activité solaire. Plus il y a de tâches solaires, plus il y a une activité solaire importante. Il y a une grande corrélation entre les deux. Et ce nombre de tâches, il est suivi depuis très longtemps, 1755. C'est pour ça que c'est numéroté, le cycle numéro 1, voilà, 1755. Et donc, on a on voit le nombre de tâches solaires, l'évolution du nombre de tâches solaires. On voit qu'il y a des variations, donc il y a des cycles solaires qui sont à peu près aux alentours de 11 ans. C'est régulier. Et à l'intérieur de ces cycles solaires, on a des grands mouvements. Donc il y a des périodes très forte activité. Typiquement, dans les années 50, il y a eu énormément d'activités. Il y en a eu aussi ici, 1920 par là. 1920, je vous rappelle, c'est le premier contact radioamateur, hein, 1923. Et donc on était dans un pic de propagation ici. Voilà, et en ce moment, bah, on est à la fin, enfin, on a fini le cycle 24, on arrive au cycle 25, là, maintenant, et le cycle 24 a été particulièrement faible. Voilà. Faible, comme ici, dans cette période-là, ou ici. Alors, là, ici, ce sont des mesures ponctuelles, c'est-à-dire que, de temps en temps, bah, y a des gens qui mesuraient, comptaient le nombre de tâches, mais évidemment, il n'y avait rien de construit ni de régulier, donc difficile. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à cette époque-là, donc dans l'époque 1650-1700, on a eu une très faible activité solaire parce que personne ne voyait de tâches solaires sur le soleil, et ça correspond aux petites tâches glaciaires. Donc ça veut dire que à ce moment-là, peu d'activité solaire, et donc la température de la Terre qui diminue. On revient, moindre évidemment que dans cette période-là, mais ici on voit qu'on rediminue ici l'activité solaire, et pourtant la température de la Terre continue d'augmenter. Donc si ça se trouve, si on avait continué à avoir une activité solaire comme fin des années 2000, eh bien, la température de la Terre augmenterait nettement plus que ce qu'elle le fait actuellement. Donc ça serait encore plus catastrophique. Alors, Richard qui nous dit que, effectivement, en France, c'est l'observatoire de Meudon qui scrute le Soleil et qui calcule le nombre de tâches solaires. Donc, voilà. Et donc, il mesure le nombre... Il compte le nombre de tâches solaires et il mesure l'activité solaire ici en watts par hertz par mètre carré. Donc c'est à Meudon, vous avez ça à l'observatoire en haut de la. À côté de Meudon, la forêt. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, c'est le cycle numéro 19 là, qui a eu énormément, un gros nombre de tâches solaires. Il y a eu simultanément 250 tâches solaires visibles en même temps. Et donc c'est ce qui a fait cet énorme ici boost de ce nombre de tâches solaires et évidemment aussi du flux solaire. Voilà. Là, on en arrive au cycle solaire numéro 25. Et donc, la blague, là, c'était au mois d'avril dernier, c'est que le cycle solaire numéro 25 venait de sortir de son confinement. Et donc là, c'était le 28 avril, on avait ces deux tâches solaires là qui montrait que le Soleil reprenait un peu d'activité. Il faut savoir que pendant 100 jours, il n'y a eu aucune tâche solaire, ce qui était rarement vu jusqu'à présent. On pouvait avoir une dizaine de jours sans tâche solaire. Là, on a eu 100 jours d'affilée sans aucune tâche solaire visible. Donc ça veut dire que le Soleil y était plus qu'en léthargie. Voilà, et donc ça c'est une photo prise par le département solaire de recherche en physique de l'Observatoire Royal de Belgique. Voilà. Et donc la question c'est de savoir est-ce que ce cycle solaire 25 va être aussi faible que le 24 ou au contraire est-ce qu'il va exploser ? On n'en a aucune idée. En tout cas, ce qui est certain c'est que le maximum de ce cycle solaire numéro 25 sera aux alentours de juillet 2025. Voilà, sans être super précis, mais voilà, c'est mi-2025 que on devrait avoir un maximum, puisque, encore une fois, les cycles solaires durent 11 ans. Donc après, c'est assez facile de définir on fait une belle courbe en cloche et puis on voit à peu près où elle tombe. Et on a peu de chances de se tromper. Voilà, alors les autres modes de propagation, on en a parlé un peu, les ondes de sol, qu'on appelle aussi des ondes de surface. C'est plutôt les Anglais qui ont tendance à utiliser ce mot, onde de surface. Et donc, on en a parlé, c'est que les ondes, elles se baladent entre la Terre et la couche D de la ionosphère. Ça fonctionne grosso modo jusqu'à aller 1 méga, et ça fonctionne bien jusqu'aux alentours de 300 kHz. Ce sont les grandes ondes. Hein, et c'est pour ça qu'elles sont utilisées, ces grandes ondes, c'est que avec un seul émetteur, avec beaucoup de puissance évidemment, avec un seul émetteur, vous arrosez 2000 km autour de vous. Donc c'est quand même assez intéressant. Et l'avantage aussi, c'est comme ce sont des ondes de sol, il n'y a pas d'obstacle lié notamment aux montagnes. Les ondes continuent à évoluer entre le relief terrestre et la couche D. Donc elles occupent tout cet espace-là. En onde directe, donc les antennes sont en vue l'une de l'autre, on a vu, et donc il y a un phénomène de diffraction qui provient du changement de température des masses d'air. Et puis enfin, il y a plusieurs autres types de propagation qui sont assez aléatoires, et donc finalement, il n'y a que les radioamateurs qui les utilisent, parce que comme c'est assez aléatoire, bah, quand on est en professionnel, bah, on ne peut pas s'amuser à avoir quelque chose qui est très aléatoire. Et donc typiquement, ce sont ce qu'on appelle des diffusions troposphériques, les ductes, qui sont des sortes de guides d'ondes. Voilà. On a des réflexions sur les traînées ionisées des météorites. Quand vous voyez une météorite, vous pointez l'antenne sur la météorite, et comme ça, comme aux alentours, autour de la météorite, c'est bien ionisé, eh bien, vous allez pouvoir contacter quelqu'un via ces traînées de queue de comète, finalement. Sur la Lune, alors là, c'est un peu... Enfin, c'est compliqué, non. Faut juste bien viser. Et donc, c'est la Lune qui sert de réflecteur. Évidemment, c'est des puissances qui sont assez phénoménales, mais ça marche relativement bien, sous réserve d'avoir une antenne qui vise bien et que la Lune, donc c'est un peu compliqué, et puis aussi, pourquoi pas, les nuages de pluie, ou les aurores boréales. Là, il y a plein de possibilités, mais c'est essentiellement VHF et UHF. Et souvent, avec des puissances élevées, donc, et puis c'est très aléatoire. C'est pour ça que, là, on y passerait des heures. Alors, sur les antennes, en fait, on a très peu de questions. Toutes les questions, enfin, tout au moins les trois quarts des questions sont posées à l'examen de réglementation. Donc, on les a déjà un petit peu vues quand on a fait la réglementation, si bien que les questions en elles-mêmes sur les antennes, dans la partie technique, ben, on n'en a quasiment pas. Alors, je ne dis pas que c'est tant mieux, mais c'est un peu presque dommage. Parce que du coup, ben, c'est toute cette partie-là où on pourrait en discuter pendant des heures et des heures. On va le voir très rapidement. Donc on a peu de questions. On a quelques questions aussi sur le calcul de la PIRE et de la PAR, qui sont strictement identiques à ce que l'on a vu quand on a parlé de la réglementation. Donc en fait, voilà. Et donc, des fois, on peut se poser la question, est-ce que le candidat se souvient bien de l'épreuve dans laquelle il a vu cette question, si c'est l'épreuve de réglementation ou l'épreuve de technique, d'ailleurs. Enfin bon. Et puis aussi, on a des questions sur le couplage amené par des antennes identiques. Le problème, c'est qu'elles existent bien sur le logiciel ANFR de présentation des questions d'examen. Mais dans les questions d'examen, j'en ai jamais vu, tout au moins dans les comptes rendus qui me sont remontés. Donc, voilà. Je pense que c'était un les exemples que voulait donner l'ANFR, mais qui, derrière, n'ont pas débouché sur des questions réelles ou des questions qui ont été retirées depuis. Pour revenir à notre sujet des antennes, qu'on va voir très, très rapidement, finalement, puisque peu de questions, donc, une antenne, c'est un dispositif qui va assurer la liaison entre le milieu de propagation, donc l'air en l'occurrence, où se baladent les ondes, où sont les champs électromagnétiques, où sont les ondes électromagnétiques, et une structure dans laquelle circulent les ondes sous forme de courant électrique. Et donc ça, généralement, c'est un conducteur, et après, on a un câble coaxial, qu'on verra la semaine prochaine, qui ramène l'ensemble au récepteur, ou inversement, quelque chose qui va, à partir du courant qui arrive du câble, générer un champ électromagnétique dans le milieu de propagation. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'une antenne est un dispositif passif. Passif, pourquoi ? Parce que c'est réciproque. Ça marche aussi bien dans un sens, réception, que dans le sens émission. Évidemment, il faut faire attention quand on parle d'émission, notamment aux tailles du circuit électrique et de tout ce qui est fil conducteur. Parce que, évidemment, si on envoie des kilowatts, il y a intérêt à ne pas mettre un tout petit fil de 1 mm carré. Hein. Ça ne va pas marcher, le fil il va fondre assez rapidement. Donc voilà, hormis cette problématique, je dirais, de dimensionnement des composants, une antenne, elle a les mêmes caractéristiques à l'émission et à la réception. Mêmes caractéristiques, c'est-à-dire quoi ? Le même gain, la même directivité, la même impédance. Pourquoi ? Parce que c'est un système passif. Et donc, du coup, comme c'est passif, eh bien, ça a les mêmes caractéristiques qu'on soit dans un sens ou dans l'autre. Pour rappel, lorsqu'on est en courant continu, là, on est dans le... Enfin, quand on parle d'ondes électromagnétiques, on est dans le courant alternatif, on est bien d'accord. Mais lorsqu'on est en courant continu, et qu'on a un fil comme ça, on va avoir dans le fil, c'est ma loi, encore une fois, c'est la loi de c'est mon bonhomme d'Ampère, hein. C'est exactement cette même loi qu'on va reprendre là, c'est-à-dire qu'on a un fil avec un courant qui passe dans ce sens, et on va avoir un champ magnétique qui va tourner autour de ce fil électrique, dans ce sens-là, avec des forces de champ qui, plus on s'éloigne, évidemment, plus c'est faible. Et plus on s'éloigne, plus c'est faible, mais ça va très rapidement être très faible. Ce qui veut dire que quand on est en courant continu, on va avoir juste un champ magnétique, mais uniquement aux alentours du fil. Dès qu'on va être éloigné, on va dire d'un mètre, sauf si on a un courant énorme qui va passer là-dedans, mais sinon, il se passe plus rien. Donc on n'a pas de propagation lorsqu'on est en courant continu. Quand on est en courant alternatif, en plus de ce champ magnétique, on va avoir un champ électrique qui, lui, va être perpendiculaire au champ magnétique et parallèle, ici, au fil conducteur. Et dans le même sens. C'est-à-dire que si ici j'ai une intensité qui va dans ce sens-là, ici je vais avoir une tension qui va dans ce sens-là. Et donc ça, c'est un champ électrique. Donc je vais avoir un champ électrique et un champ magnétique, et donc une onde électromagnétique qui va se propager beaucoup, beaucoup plus loin que le simple champ magnétique lorsque je suis en courant continu. Et donc, l'antenne de base qui a servi notamment à Marconi pour son premier émetteur, c'est cette fameuse, ce fameux dipôle, qui est donc constitué de deux fils, enfin, ou un seul coupé en son milieu, enfin, ou deux fils de longueur identique, alimentés ici en son milieu, et cette longueur de fil, c'est exactement une demi-longueur d'onde, donc chaque fil fait un quart d'onde. Voilà. Et ici, vous avez la répartition de l'intensité et de la tension en fonction, ici, bah, d'où on se trouve dans le là où on mesure. Voilà. Alors, cette antenne a été mise au point par Alexandre Popov. Popov, c'était un des amirals russes qui a finalement fait en sorte que la marine russe ait leur radio à bord. Et donc, il a mis au point ce système-là en 1896. Donc, quasiment en même temps que les expériences de Marconi. Et Marconi a pris cette antenne de Popov pour ses expériences à Bologne. Voilà. Donc, c'est l'antenne de base, alors qui s'appelle dipôle, ou doublet demi-onde alimenté au centre. C'est très compliqué, enfin c'est très long, mais un doublet parce qu'il y en a deux, demi-onde parce que bah, ça fait une demi-onde en longueur complète, et alimenté au centre, bah, parce que c'est alimenté en centre. Voilà. Et donc, à chaque extrémité ici du dipôle, on a une intensité nulle et une tension maximum. Pourquoi ? C'est que lorsque le courant arrive ici, et donc il va arriver de la manière inverse, il va sortir de cette partie-là et rentrer dans le câble, et ici sortir du câble et arriver là, puis après dans l'alternance suivante, ça va faire l'inverse. Lorsque le courant arrive au bout ici, eh bien, il ne sait pas faire autre chose que de rebrousser chemin et de partir en arrière. Si bien que lorsque l'on mesure ici l'intensité, à cet endroit-là, eh bien, on a autant de courant qui va dans un sens que de courant qui va dans l'autre. Si bien que l'instrument de mesure, ce que l'on mesure, bah, on dit bah, il n'y a pas d'intensité. Mais en fait, c'est faux. Il y a autant d'intensité qui va dans un sens que d'intensité qui va dans l'autre. Et donc c'est pour ça qu'ici, on n'a pas d'intensité. En revanche, la tension, elle, eh bien, elle va... La tension, elle arrive au bout, et elle repart. Et si bien que elle arrive, finalement, et elle double, puisqu'il y a la tension qui est dans un sens, puis la tension dans l'autre sens. Lorsque le courant change de sens, la tension, elle, ne change pas de sens. Ce qui change de sens, c'est uniquement l'intensité. Donc, au bout, ici, on a la tension qui va avoir son maximum. Et pourquoi ici, ça revient au minimum ? C'est que le temps, ici, que l'onde revienne en son centre, eh bien, du coup, elle s'est déphasée de 90 degrés. L'onde, ici, elle se balade à une certaine vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière, un tout petit peu moindre, mais si bien que lorsqu'elle arrive ici au milieu, eh bien du coup, elle est inversée de 90 degrés. Et donc, l'onde comme ça, elle fait son aller-retour ici sur un quart d'onde seulement, puisque lorsqu'elle fait son demi-tour, eh bien c'est là qu'elle prend 180 degrés. Elle change de sens, donc elle rajoute 180 degrés. Voilà. Et évidemment, on a le même phénomène de l'autre côté. Ce qui veut dire que... Alors, comment ça se calcule ? Là, je ne vous rentre pas dans les détails parce que ça se calcule. Je vais vous laisser... s'il y a des gens qui savent le faire, ils viendront l'expliquer de manière simple. Et ça, ça va être un peu compliqué à mon avis. C'est que quand on va avoir ici des fils alignés, et que l'antenne est en milieu, sans aucun obstacle autour, hein, Et bien ici, on va avoir une impédance de 73 ohms. C'est-à-dire, et cette impédance, elle va être finalement dirigée par l'impédance ici du milieu de propagation. Hein, c'est cette impédance du milieu de propagation qui va déterminer ici cette impédance. L'impédance du vide ou de l'air, c'est 377 ohms. Donc ça, on va le voir la semaine prochaine. Voilà, vous le prenez tel que, c'est un truc super compliqué, enfin super compliqué, pas si compliqué que ça, mais voilà, donc faut le savoir, c'est 377 ohms, et c'est ce qui va finalement décider de, ici, l'impédance au point d'alimentation de l'antenne. Donc l'impédance, encore une fois, c'est le rapport de tension divisé par intensité. Et ça, on est certain que c'est 73 ohms. Si, évidemment, si on est dans ce qu'on appelle en espace libre, c'est-à-dire loin de tout obstacle, et notamment du sol. On verra voir tout à l'heure que quand on est, par exemple, sur le 40 mètres, ou le 20 mètres, bah, loin du sol, ça se complique un petit peu. Hein? Loin du sol, c'est être à plus de 3 longueurs d'onde de tout obstacle. Donc 3 longueurs d'onde sur 20 mètres, bah, ça fait 60 mètres. Voilà, donc ça devient un petit peu compliqué. Et donc au centre du dipôle, pour venir jusqu'au bout, ici j'ai une intensité alors qui n'est pas nulle mais qui est minimum, et une tension pardon qui est minimum et une intensité qui est maximum. Voilà. Et si je fais varier ici la forme de mon antenne, donc si je rabaisse un petit peu, là ils sont alignés, ils sont parfaitement alignés mes deux brins, et si je les mets ici à 120 degrés, eh bien je vais avoir l'impédance va diminuer, et je vais avoir une impédance de 52 ohms, proche des 50 ohms que on va rechercher la semaine prochaine quand on parlera des adaptations. Et même chose, si plus je diminue l'angle, à 90 degrés, ici, j'ai 36 ohms. Encore une fois, c'est quand je suis en espace libre. Alors, quand je suis proche d'un obstacle, ça reste, enfin, l'ordre d'idée reste valable. Je vous rassure, hein, ça passe pas du simple au double. Mais on n'a pas précisément les 73 ohms. Et en règle générale, plus on se rapproche d'un obstacle, plus l'impédance diminue. Donc ça, c'est mon dipôle. Le quart d'onde, alors là, j'en ai pas vu dans les questions de technique. Autant j'en ai vu quelques-unes en règle sur le dipôle, et vraiment quelques-unes. Autant j'en ai pas vu sur l'antenne verticale. L'antenne verticale, en fait, c'est la même que celle-ci, sauf que je lui fais faire un quart de tour. Et je lui fais faire un quart de tour. Donc ici j'ai un brin rayonnant qui devient vertical, qui est là, et le deuxième brin, donc finalement la tresse de mon câble coaxial, je le raccorde ici à la masse. Si bien que j'ai une antenne qui est verticale, et ici, par reconstitution électrique finalement, j'ai un brin qui est reconstitué par le plan de sol ou la terre, la masse. Alors le plan de sol, ça peut être aussi d'ailleurs des radiants qui vont être positionnés autour de cette antenne. Et donc il faut au moins 3 radiants. Alors il y en a qui disent qu'un seul suffit, ça marche aussi, mais ça marche moins bien. Il faut au moins 3 radians pour reconstituer efficacement la Terre. C'est pour ça que j'ai dit reconstituer efficacement. et puis, comme ici, j'ai un angle de 90 degrés entre mon plan de sol et ici mon brin rayonnant, ben, j'ai ici une impédance de 36 ohms. Et si je mets ici des radians au lieu d'un plan de sol, si je mets ici des radians ici à 120 degrés, eh bien, je récupère mon impédance de 52 ohms. Alors, je peux utiliser ici un brin rayonnant plus court que le quart d'onde. parce qu'évidemment c'est une demi-onde, hein. Donc prenez votre calculette, demi-onde, bah, la longueur de votre antenne, c'est quoi? C'est 150. Pourquoi 150? Parce que c'est 300 divisé par 2, hein, demi-onde, divisé par la fréquence. Et ça me donne donc lambda sur 2. Donc lambda, la longueur d'onde, divisé par 2. Donc une antenne pour le 40 mètres, ça va faire 2 fois 10 mètres. Une antenne pour le 20 mètres, ça va me donner 2 fois 5 mètres. Et visuellement, en essayant de déterminer la longueur d'un dipôle, ben on sait sur quelle fréquence va marcher une antenne. Ça, ça marche pas trop mal. Donc brin plus court ici, parce que souvent ces antennes sont utilisées pour des fréquences très basses, et donc des longueurs d'onde très élevées, on est quelquefois coincé ici par la hauteur, et donc on va faire en sorte de rallonger artificiellement le brin, et par deux manières, soit une bobine qui va faire en sorte que mon brin va créer un déphasage, et donc ce déphasage va permettre à l'onde de croire qu'elle fait toute la longueur, mais en fait pas du tout. En revanche, ici elle fera bien demi-tour, elle reviendra. Alors ça se calcule, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut calculer le déphasage. Alors, quand on n'émet pas, il n'y a ni tension ni courant dans l'antenne. Quand on n'émet pas, il n'y a rien du tout. Alors, si, il y a tension et courant dans l'antenne, mais c'est tension et courant côté réception, donc avec des valeurs très très faibles. Du microvolt, du micro, voire du nanoampère. Donc c'est des valeurs très faibles. Il y a du courant, mais qui évidemment n'a aucun rapport avec la valeur du courant en émission. Hein, en émission, on est plutôt, pour faire simple, 100 volts et 2 ampères, ça fait 200 watts, grosso modo. Hein. Et ça tombe bien, ça fait 50 ohms. Et quand on est en réception, bah, on est avec des valeurs qui sont plutôt aux alentours du microvolt pour les tensions et du nanoampère pour l'intensité, avec le même rapport 50 ohms, ou 73 ohms selon l'antenne que vous utilisez. Et donc, voilà. Et donc, oui, plus court, des brins plus courts, donc une bobine ici au milieu, ou à la base, après c'est à vous à calculer ça, enfin, selon, si vous le mettez à la base, vous perdez en... Parce qu'évidemment, le fait de rajouter une bobine, vous perdez ici en intensité. Vous avez moins d'intensité. Or, c'est l'intensité qui génère, vous avez vu, le champ électrique. Et donc, le champ magnétique, il va suivre derrière. Donc, s'il y avait peu de champ électrique, vous allez avoir un rendement qui va être faible. Et donc, si vous mettez votre antenne, votre bobine à la base, le rendement va être pas bon. Si vous mettez ici votre bobine trop haute, vous allez avoir des problèmes pour régler l'antenne, c'est-à-dire qu'elle va avoir une bande passante très réduite. Vous allez avoir une bande passante ridicule de 20 ou 30 kHz, et au-delà, elle ne fonctionnera pas. Elle va avoir... elle n'aura pas une fréquence de résonance, une largeur de bande qui fonctionnera. Et donc après, donc selon ce que l'on veut faire, alors il y en a qui la mettent au milieu pour essayer d'avoir les avantages et les inconvénients, mais c'est pas l'idéal. Autre solution aussi, c'est de mettre une capacité terminale en haut. Donc, ça ressemble un petit peu c'est un condensateur, mais qui a la forme un petit peu d'un parapluie en haut d'une antenne. Ça s'appelle une capacité terminale. Et le problème aussi, c'est que si vous raccourcissez l'antenne ou si vous rajoutez une capacité terminale, ça va vous changer l'impédance de l'antenne. Et donc, vous allez déjà qu'elle a ici, elle a 36 ohms, vous allez encore la diminuer, et donc vous allez avoir des problèmes au niveau de l'adaptation puisque, encore une fois, on verra la semaine prochaine que l'idéalement, c'est d'avoir ici 52 ohms. Donc si vous réduisez encore l'impédance, vous allez encore avoir plus de problèmes. Enfin, j'ai vu une fois une question sur une antenne 5/8 ou 7/8, je ne sais plus. Et donc, c'est des antennes particulières qui font évidemment 5/8 et 7/8 de longueur d'onde avec un système d'alimentation particulier, parce qu'ici, on ne met pas un câble coaxial directement. Il y a un système d'alimentation d'antenne qui est particulier. Elles ont des caractéristiques qui sont intéressantes parce que, on va voir tout à l'heure les lobes de rayonnement, ces antennes-là ont des lobes de rayonnement beaucoup plus aplatis que les simples verticales. Donc en fait, elles visent plutôt l'horizon, ce qui est mieux que les antennes verticales comme ça, qui visent plutôt ici les 30 degrés. Donc voilà, c'est un peu mieux. L'antenne Yagi, bah là je vous ai mis... Alors, ça c'est la petite histoire qui est pas mal aussi. Monsieur Yagi, en fait, c'est pas l'inventeur de cette antenne, c'était Monsieur Ouda. Messieurs Ouda et Yagi étaient des Japonais. Monsieur Ouda qui a inventé cette antenne ne parlait pas anglais. Et c'est son élève, Monsieur Yagi, qui a traduit tout ce qu'a fait Monsieur Ouda, qui a été publié et qui a été connu. Voilà. Et donc, 1926, ses premières antennes directives. Le principe de l'antenne Yagi, c'est qu'il y a un élément rayonnant qui est le dipôle, et Monsieur Ouda a remarqué que lorsqu'on mettait des parasites devant, derrière, donc ici devant, plus court, et derrière, plus long, eh bien, on dirigeait le champ électromagnétique. Donc, on a créé une antenne directive. Alors, du moment que l'émetteur est allumé, l'antenne a du courant et tension. Attends, l'émetteur est allumé, ça veut dire quoi? L'émetteur fonctionne ou pas? Parce que c'est bien beau qu'il soit allumé, mais s'il n'est pas en émission, ça ne va pas marcher. Voilà, à partir du moment où il est en émission, eh ben, il y a du courant et des tensions. Et tant qu'il n'est pas en émission, c'est pas le fait qu'il soit allumé, c'est le fait qu'il soit en émission ou pas. Voilà. Donc pour revenir à mon antenne Yagi, là, voilà comment ça fonctionne. Donc les éléments directeurs sont plus courts, les éléments réflecteurs sont plus longs. Évidemment, il y a une distance ici à respecter pour que ça fonctionne, hein. Sinon ça serait trop simple. Et le fait de rajouter des éléments parasites, eh ben, ça va diminuer du coup l'impédance ici de l'élément rayonnant. Alors, quelquefois ça tombe bien parce que je rappelle quand même mon élément rayonnant c'est 73 ohms. Si ici c'est bien, si les deux éléments sont bien alignés, et le fait de rajouter ces éléments parasites, ben en fait on va se rapprocher des 50 ohms. Donc finalement, c'est pas plus mal que ça. Et après on cherche la position idéale ici du directeur et du réflecteur pour arriver à optimiser l'impédance avec le lobe de rayonnement et le fait que l'antenne envoie un champ électromagnétique dans une direction privilégiée. Et évidemment, plus on met d'éléments, alors la plupart du temps ce sont des éléments directeurs, on a en règle générale 1, 2 réflecteurs maximum, mais on va ajouter devant des directeurs jusqu'à des fois une dizaine de directeurs que l'on peut avoir devant l'élément rayonnant qui vont être placés à espace régulier. Ici, je vous ai rajouté les gains d'une antenne. Alors, par rapport à la dernière version, enfin, ça, c'est la dernière version du cours, mais par rapport aux versions antérieures, ici, j'ai modifié le schéma du doublet parce que c'était pas très bien expliqué et j'ai préféré l'expliquer de cette manière. Alors, premièrement, on a donc le gain d'une antenne se mesure dans la direction du rayonnement privilégié maximum. Ce gain va se mesurer en décibels. Hein, donc, ce n'est pas un rapport mathématique, ça va être calculé en décibels. Et donc, le décibel, comme vous le savez, c'est par référence à quelque chose. Donc, soit on prend comme référence l'antenne de base qui est le doublet, et dans ce cas-là, ça s'appellera des dBd, D comme doublet, ou autre solution, c'est utiliser une antenne qui n'existe pas, sauf dans la tête des mathématiciens, qu'ils appellent l'antenne isotropique. L'antenne isotropique, c'est quoi? C'est un point qui rayonne avec autour le rayonnement est uniforme, donc c'est une sphère, et dont l'émetteur, enfin le point, l'antenne, est au centre. D'accord? Donc ça émet de manière uniforme tout autour de ce point rayonnant. Donc évidemment, cette antenne, elle n'existe pas. Et c'est juste pour dire, ben voilà, ma puissance, c'est finalement ce volume-là, ou cette surface-là, que je vais répartir différemment, selon que j'utilise une antenne ou une autre, hein, qui va finalement montrer dans quelle direction va rayonner mon antenne. Et donc cette antenne de référence qui n'existe pas, elle va s'appeler l'antenne isotropique, et donc les calculs de gain d'une antenne par rapport à cette antenne isotropique, ça va s'appeler des dB iso. Et tous les fabricants d'antennes vont vous parler des antennes, enfin de leur gain en dB iso, qui n'existe pas. Et si vous voulez rapporter ça à une antenne qui existe, le doublet, eh bien il faut rajouter un peu, enfin tout au moins diminuer le gain qui est donné en dB iso de un tout petit peu plus de 2 dB. Donc par un coup de passe-passe, les commerçants ont réussi à rajouter 2 décibels dans le gain de leur antenne en passant par des dB iso. Et donc quand on regarde le diagramme de rayonnement des antennes, c'est quoi? C'est la répartition de la puissance dans toutes les directions. Alors vous avez deux représentations possibles, soit la représentation verticale de côté, comment rayonne l'antenne de côté, et donc est-ce qu'elle tire plutôt vers le haut, vers le bas, vers l'horizon, voilà. Ou au contraire, une représentation horizontale, donc vue de dessus, est-ce qu'elle est omnidirectionnelle, est-ce qu'elle arrose dans toutes les directions, ou est-ce qu'au contraire, elle est directive, et donc elle envoie dans une direction privilégiée. Donc avec mes trois antennes dont on vient de parler tout à l'heure, le quart d'onde, le doublet horizontal et la bille. Le quart d'onde, il n'y a pas une énorme incidence sur par rapport au sol, si ce n'est dans le plan ici vertical. Pourquoi? C'est que si on est dans un plan, enfin, loin de tout obstacle et notamment du sol, ici on va avoir quelque chose qui représente qui est équivalent à cet ici, au rayonnement du doublet en espace libre et au rayonnement horizontal du doublet en espace libre. Mais comme ici je suis rapproché du sol, eh bien mes lobes ici vont se déformer et vont non pas viser l'horizon, mais vont viser là 30 degrés. Environ. Et lorsque l'on regarde du dessus, évidemment, une antenne verticale, vous savez qu'elle est omnidirectionnelle, donc elle envoie la puissance dans toutes les directions. Et donc, quand on regarde ça par rapport à l'antenne isotropique, l'antenne isotropique, vue du dessus, ma sphère, elle a une certaine taille, Et quand on regarde au-dessus de mon antenne carbone, ben, évidemment, elle n'a pas de gain, là. En revanche, elle a du gain, donc d'un point de vue horizontal, elle n'a pas de gain, puisqu'elle envoie la puissance de toutes les directions. En revanche, d'un point de vue vertical, elle va envoyer la puissance non pas dans toutes les directions, mais ici, plutôt vers 30 degrés. Donc c'est peut-être pas la bonne antenne adaptée si vous voulez faire du DX en décamétrique. Parce que celle-là, elle va plutôt viser un circuit court. Pour avoir un circuit long, il faut mieux viser l'horizon et donc faire les sauts les plus longs possibles, parce qu'évidemment, c'est à chaque fois que vous retombez sur la Terre que vous perdez vous perdez de la puissance. Deuxième antenne, on va faire tout de suite l'antenne Yagi. L'antenne Yagi, on a vu que c'était une antenne directive, donc la surface ici de mes lobes de rayonnement, là, ça correspond à la surface que j'ai ici de mon cercle, de mon antenne isotropique. Voilà. Et ici, j'ai mon brin rayonnant, et ici, mes deux parasites. Et là, je mets bien dans une direction privilégiée. Lorsque je regarde ça d'un point de vue vertical, alors, lorsque je suis à une certaine distance du sol, on va voir tout à l'heure, eh bien, ça va changer ici l'angle de départ de mon onde. Ah, c'est-à-dire que en espace libre, ici, je tirerai l'horizon complètement. Et donc, pour terminer ici mon doublet horizontal, avec deux cas de figure, le cas de figure idéal en espace libre, donc loin de tout obstacle, donc à plus de 3 longueurs d'onde de tout obstacle, et ici, dans la vraie vie, par exemple, à une demi-longueur d'onde du sol. Donc quand je suis à une demi-longueur d'onde du sol, d'un point de vue vertical, ça ressemble quand même pas mal ici à mon quart d'onde, hein, quelque chose près, c'est peut-être un peu moins marqué, mais enfin ça ressemble étrangement. Et quand je regarde du dessus, en revanche là, j'ai bien quelque chose qui est qui est directif, mais directif dans les deux sens là. En fait, je ne reçois peu dans le prolongement des brins, mais j'aimais peu dans le prolongement des brins, et j'aimais un maximum perpendiculairement ici à mon brin rayonnant. Voilà, et quand je suis en espace libre, ici, je n'aimais rien ici dans le prolongement de mes brins, alors qu'ici je mettais un petit peu. Et ici, en fait, ici, j'ai un tort. Un tort, c'est quoi? C'est comme un pneu de voiture, quoi. Mais avec ici un centre très fin. Et donc, j'émets de manière. Alors, quand je suis en espace libre, c'est-à-dire 3 longueurs d'onde de tout obstacle et même plus pour avoir quelque chose de parfaitement rond. Hein. Et donc, j'ai quelque chose qui est omnidirectionnel. Sur le point de vue vertical, c'est-à-dire que j'émets autant vers le ciel, vers l'horizon ou vers le sol. Hein? Donc vraiment, c'est quelque chose qui est... Et cette antenne-là n'a pas grand intérêt quand on est en espace libre. Elle a quand même beaucoup plus d'intérêt ici quand on est proche du sol, parce qu'elle a cet effet ici d'envoyer la puissance ici, alors non pas à l'horizon, mais à 20 ou 30 degrés par rapport au sol. Puissance PAR, On en a parlé quand on avait fait la partie réglementation. On va le revoir rapidement. Donc la PAR, c'est quoi ? C'est la puissance que sort l'émetteur, moins évidemment toute la puissance qui va être perdue, notamment dans les pertes dans le câble, ou les connecteurs, ou tout ce genre de trucs, et multiplié par le gain, mais le rapport de puissance que sort l'antenne. Ah, donc la PAR, c'est la puissance qui correspond à la puissance qu'il faudrait mettre dans une antenne dipôle pour que le correspondant ait l'impression, ait la même puissance, ou tout au moins qu'on émette la même puissance dans cette direction. Donc en fait, on a juste concentré la puissance comme on pourrait le faire avec une lampe torche où la lumière, elle est concentrée dans une direction. Et par exemple, la lampe torche, elle ne va pas du tout vous éclairer le reste du chemin, elle va vous éclairer juste dans la direction de sa focale, et puis c'est tout. Hein. Donc pour bien visualiser les choses, c'est tout à fait ça. Hein, l'antenne directive, c'est une lampe torche qui envoie dans un faisceau bien particulier, et en dehors du faisceau, il n'y a rien. Alors évidemment, c'est plus ou moins focalisé selon le nombre d'éléments qu'on met dans l'antenne et donc le gain qu'a l'antenne, mais voilà, c'est bien cette optique-là qu'il faut avoir et non pas une lampe qui éclairerait l'intégralité de ce que vous avez autour de vous. Donc ça, c'est la PAR et la PIRE. Eh bien, au lieu de comparer ça par rapport au doublet, on va comparer ça par rapport à l'antenne isotropique, c'est-à-dire qu'on va considérer que l'antenne que vous utilisez est une antenne isotropique qui n'existe pas. Et donc c'est ce qui rajoute, cette antenne isotropique, ça rajoute un gain de 2,14 dB. Pourquoi ? Parce que, en fait, mathématiquement, c'est un rapport de puissance de 1,64. Précisément, c'est 1 plus 2 divisé par pi. Et 1,64, quand on transforme ça en décibels, ça fait 2,14 décibels. Voilà. Donc la PIRE, c'est donc PAR plus 2,14 décibels, ou la PAR multiplié par 1,64, quand on transforme ça en termes de rapport de puissance. Angle d'ouverture, pas de question à l'examen, mais bon, voilà. L'angle d'ouverture, c'est quoi ? C'est le fait que le pinceau lumineux, entre guillemets, de l'antenne, est plus ou moins restreint. Et plus il est restreint ici, plus vous avez ici un angle d'ouverture qui est resserré, et plus l'angle d'ouverture est large, automatiquement, moins la puissance est concentrée dans une direction et moins il y a de gain. Voilà. Et puis vous avez aussi le rapport avant-arrière qui permet de déterminer, puisque en fait ici le lobe arrière, c'est le lobe de rayonnement parasite principal, le plus gros. Et donc, c'est ce rapport avant-arrière qui va vous dire, la puissance, elle est répartie vers l'avant de telle manière, en décibels, par rapport au reste des autres directions. Puisqu'encore une fois, le lobe arrière, c'est le principal lobe le plus important des lobes parasites ou tout au moins latéraux. Complément sur les antennes, rapidement, mais aucune question à l'examen, et c'est tant mieux, ça c'est pour ceux qui veulent aller plus loin avec des calculs très précis sur les puissances, etc. à distance. Donc la densité de puissance, c'est... Donc la densité de puissance à distance, c'est donc qui se calcule en watts par mètre carré, c'est la PIRE divisée par 4 pi distance au carré. Et donc ça te permet comme ça de déterminer quelle est la puissance à une certaine distance de l'antenne. Donc une fois que l'on déformé, la valeur du champ électrique généré par l'antenne ne dépend que de la densité de puissance. Et donc cette densité de puissance, donc en volts, enfin le champ électrique donc en volts par mètre, va être fonction de la densité de puissance. Et donc on a cette formule-là qui permet d'y arriver. Donc on fait racine carrée de 30 PIRE en watts divisé par la distance en mètres. Et donc on a la tension du champ électrique à distance. La surface effective de l'antenne, c'est ce qui va permettre de... C'est la surface de captation de l'antenne. Et la surface de captation de l'antenne, ça va dépendre du gain de l'antenne finalement. Gain de l'antenne et aussi de ce qui va dépendre aussi de la longueur d'onde. Donc la surface effective, c'est la surface de captation. Et la formule de Friis, qui donne donc la puissance reçue à distance, c'est donc la densité de puissance multipliée par la surface effective. Et donc là, je vous ai donné des calculs précis. Donc on a 120 watts PIRE sur une antenne 144. Quelle est la puissance reçue à 10 km aux bornes d'une antenne de 6 dBi? Donc, densité de puissance, 95 nanowatts à 10 km. C'est-à-dire que de mes 120 watts PIRE au début, il ne reste plus que 95 nanowatts par mètre carré. La surface effective de mon antenne, c'est... Là, je prends la formule telle qu'elle est, c'est 1,38, parce que mon antenne fait 6 dB. Hop. Et puis, donc, la puissance reçue, c'est quoi? C'est donc ma puissance à distance, multipliée par la surface effective de l'antenne. Et donc, j'ai 137 nanowatts, qui correspond, si j'ai bien mes 50 ohms, à une puissance de 2,57 millivolts. Donc ça se calcule tout ça. Ça se calcule. Et donc au bout de 10 km, mes 120 watts deviennent... Alors 120 watts qui donc, grosso modo, ça fait une cinquantaine, non un peu plus, 75 volts par là, deviennent donc 2,57 millivolts sur mon antenne de réception à 10 km. Si tout va bien. Si j'ai pas d'obstacle, si tout va bien. Pas de questions non plus là-dessus. Ça, c'est les positions des ventres et de tension et d'intensité sur une antenne ouverte. Donc ça, c'est un long fil. Et donc là, c'est pour mesurer finalement ces fameux escargots de Smith. Donc selon la longueur de votre fil, eh bien, vous allez vous avoir différentes impédance. L'impédance va varier en fonction de la longueur du fil, ou si votre fil a une longueur précise et que vous faites varier la fréquence, vous allez voir que l'impédance de votre fil va varier de grosso modo 36 ohms jusqu'à 750 ohms, avec des déphasages possibles entre tension et intensité, puisque ici j'ai de l'imaginaire du J, donc ici positif et ici négatif. D'ailleurs, au passage, vous voyez que si je suis en dessous du quart d'onde, mon antenne devient capacitive, et c'est pour ça que je suis obligé de rajouter une bobine, d'insérer une bobine pour la rallonger, pour la ramener ici aux 36 ohms, pour ici faire en sorte de corriger le déphasage que j'ai ici. Voilà. Intéressant aussi, c'est les directions du champ électromagnétique. Donc, avec un doublet demi-onde, j'ai donc le champ électrique qui est parallèle ici à mon fil et le champ magnétique ici qui est perpendiculaire. voilà. Et quand j'ai une antenne qui est verticale, et bien évidemment, mes E et H sont inversés. Donc mon champ électrique et mon champ magnétique sont inversés. Et puis, dans certains cas, j'ai des antennes circulaires qui vont me permettre de faire en sorte que l'onde ne va pas rester soit horizontale ou verticale, mais va continuellement changer. C'est ce qu'on appelle des polarisations circulaires. Pas de question à l'examen, ça c'est si vous voulez aller plus loin par la suite. Et il y a plein de sujets. Alors ça c'est mon antenne, des antennes multibandes. Ça c'est aussi intéressant quand on bricole. Soit vous utilisez des multidoublets, donc un seul, enfin plusieurs doublets réunis en un seul endroit, ça s'appelle un multidoublet. Et ça marche bien, je l'ai utilisé très longtemps, moi, quand j'étais en immeuble, donc voilà. Et ici, aussi, possibilité de mettre ici ce qu'on appelle des trappes, c'est des circuits bouchons, qui vont empêcher la fréquence ici, qui résonne ici. Je mets ici un circuit oscillant sur un circuit bouchon sur la fréquence, ici, de résonance de ce brin, si bien que, comme c'est un circuit bouchon, le courant ne passe pas au-delà. Et dès qu'on change la fréquence, évidemment, ça passe. Et dans ce cas-là, ça va jusqu'au deuxième partie de l'antenne. Et donc, voilà, donc ça se calcule. Et c'est un peu sioux, parce que le fait ici de mettre un circuit bouchon, en fait, ça rajoute de la capacité, de l'inductance, et donc ça réduit artificiellement la longueur ici de mon deuxième bras. Voilà, donc ça typiquement c'est une antenne qui va fonctionner sur trois bandes, ici sur la troisième bande, mais ici sur la bande 1, et la bande 2 va passer à travers, enfin, va aller au-delà de la trappe, de la bobine du circuit bouchon là, puisque ça va être une fréquence qui n'est pas évidemment la fréquence de résonance de mon circuit bouchon. Voilà, couplage d'antenne, quand on a deux antennes identiques qui sont parfaitement couplées, en fait on double le gain de l'antenne. Alors doubler le gain, ça veut dire quoi? On rajoute 3 dB, mais si on a un gain, donc une PAR, de 100 watts par exemple, si on met deux antennes, et bien on aura une PAR de 200 watts, et si on a trois antennes, ça sera 300 watts, et quatre antennes, 400 watts, etc. etc. Alors évidemment, si c'est deux antennes, ça fait donc 3 dB, si c'est trois antennes, ça va être des décibels, des parties de décibels, et si on a quatre antennes, ça fait donc 6 dB. Hein, puisque 6 dB c'est x4. Voilà. Donc, voilà, ça c'est. Alors, attention, ces couplages d'antennes là, c'est très 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 pointu. C'est très pointu et il y a des problèmes, notamment d'adaptation d'impédance. Parce que quand on arrive avec un câble, il faut absolument que les deux, qu'on appelle les bretelles du câble, donc il y a une sorte de Y, et il doit y avoir strictement la même longueur entre les deux bretelles du Y pour alimenter les antennes, évidemment, en phase. Et ces antennes, elles doivent être situées, enfin, distantes d'une certaine longueur qu'il faut respecter. Et enfin, l'impédance, puisque quand on arrive avec un Y, par définition, l'impédance, elle est divisée par deux. Donc vous allez vous arriver avec, au départ vous avez vos 50 ohms, et après le Y, vous avez 2 fois 25 ohms. Et donc vous allez vous débrouiller avec ça pour alimenter vos antennes, et espérer que l'adaptation se passe bien. Et c'est pas gagné à tous les coups. Donc toutes les filaires avec un seul fil multibande ont des trappes. Alors toutes les antennes filaires avec un seul fil multibande ont des trappes. Oui, la plupart du temps, oui. C'est tout ce que l'on voit, c'est tous les petits. Alors, quelquefois, il y a des antennes qui vous disent qu'elles sont multibandes. et qui, quelquefois, sont alimentés d'une manière un peu spéciale, notamment c'est des longs fils. Donc c'est les fameux, le fameux balloon magique, là, le 1 sur 9 ou le 1 sur... c'est 1 sur 9 et après c'est 1 sur... 16, 1 sur 9, 1 sur 16 ou 1 sur 25. Il y en a plein. Vous en avez, il y en a des taux, et même il y en a des fois des 1 sur 64, j'en ai vu aussi. Donc vous en avez une infinité. Ça, c'est des, ce qu'on appelle le balloon magique, qui n'est pas si magique que ça. Et sinon, la plupart des multibandes avec un seul fil, effectivement, ont des trappes. Antennes fermées, alors ça c'est des antennes aussi un peu spéciales. Les antennes fermées, typiquement, c'est une antenne, ce qu'on appelle un trombone. Et en fait, c'est un doublet, mais au lieu ici que ce soit une extrémité ici libre, en fait, il y a un fil ici qui reboucle ici sur le bout. Donc finalement, ici, le courant ici, il ne fait pas demi-tour au bout, mais il fait demi-tour ici dans le fil. Et il revient là. Et quand on mesure tout l'intégralité de cette longueur-là, ben évidemment, encore une fois, ça fait une longueur d'onde. Donc, une fois que le courant a fait son tour, là, eh bien, il a fait son parcours classique, et donc il revient en arrière. Enfin, tout le moins, il revient en arrière à la moitié. Voilà. Mais ça, ça... Faut travailler dessus pour bien comprendre, et là malheureusement on ne va pas avoir le temps de bien comprendre comment fonctionne ce genre d'antenne. C'est assez, assez particulier, et donc ça c'est typiquement une antenne fermée. La particularité c'est son impédance. Elle a une impédance de 300 ohms. Et lorsque l'on fait des carrés, c'est-à-dire qu'on fait un quart d'onde, puis un quart d'onde, puis un quart d'onde, puis un quart d'onde, on arrive grosso modo, je crois, à 170 ohms. Donc, on diminue l'impédance, le fait ici de d'éloigner ici le fil de retour par rapport au fil du doublet, quoi. Voilà, et ces antennes-là, l'avantage aussi, c'est qu'elles fonctionnent sur leurs harmoniques. Toutes les fréquences, elles vont fonctionner sur toutes les fréquences harmoniques doubles. Sur le x2, le x4, etc. Et même sur toutes les harmoniques, x2, x3, etc. Donc elles vont fonctionner sur toutes les harmoniques, alors que les doublets peuvent fonctionner sur leurs harmoniques impaires, c'est-à-dire x3, x5. Alors, peuvent fonctionner, ça fonctionne pas super, mais peuvent fonctionner. On n'arrive pas aux 73 ohms, donc on a des problèmes d'adaptation d'impédance, mais ça peut dépanner. Voilà. Ou tout au moins, c'est une antenne qui. C'est ce qui permet quelquefois d'utiliser, enfin, de faire fonctionner une antenne sur des fréquences plus élevées. Voilà. Bah, typiquement, chez moi, ici, c'est l'antenne 80 mètres. Donc 2 fois 20 mètres, qui me sert aussi pour le 10 mètres et le 12 mètres. Voilà. Pas génial, parce que j'ai oublié d'utiliser la boîte de couplage pour cela. Enfin bon, c'est un autre problème, ça. Paraboles. Donc quand on parle de paraboles, en fait... on devrait dire c'est le réflecteur parabolique, puisque la partie ici, c'est ce qui permet de réfléchir les ondes et qui sont renvoyées ici sur le foyer qui est au milieu. Et c'est là-dedans que se situe l'antenne. Voilà. Il n'y a pas de question non plus sur les antennes dans la partie technique. Et enfin, des antennes patch, qui sont de plus en plus utilisées. Le patch, c'est ça, c'est un circuit, hein, c'est un bout de circuit un un bout de conducteur, hein, du cuivre, hein, tout simplement, hein, avec ici les alimentations. Et alors, vous reconnaîtrez par la suite ici, ça c'est une ligne cardonde. C'est une ligne cardonde, là, ici, ici. Voilà. Et vous remarquez aussi que la manière dont c'est fait, c'est que c'est alimenté ici en face. C'est-à-dire que vous arrivez ici et la distance pour arriver à ce patch est strictement identique à la distance pour arriver à celui-ci et à celui-ci. Donc ça veut dire que tous mes patchs ici sont en phase. Et donc c'est ça qui va donner la directivité à cette antenne. Ça, c'est typiquement les antennes qu'il y a maintenant dans vos smartphones. Voilà, et donc là, alors je vous ai mis ici la super formule qui permet de déterminer ici l'impédance de votre du patch et donc les dimensions du patch en fonction de la fréquence que vous voulez utiliser. Voilà, donc c'est bon. Ça, c'est si vous voulez vraiment aller plus loin dans les. Dans les UHF et les SHF. Alors, on a aussi les antennes magnétiques. Tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, ce sont des antennes électriques, c'est-à-dire que elles privilégient le champ électrique, hein, puisque c'est le champ électromagnétique qui va se transformer en courant électrique. Là, ce qui va se faire, c'est que le champ électromagnétique va se transformer en champ magnétique. Et donc le champ magnétique ici, il va passer ici dans la boucle. Et c'est cette boucle-là qui va se répertorier ici, se répercuter ici dans la petite boucle d'alimentation, et qui va générer finalement l'antenne. Donc dans une antenne magnétique, ce qui est important, c'est le champ magnétique qui va générer le champ électromagnétique, alors que dans toutes les antennes qu'on a vues avant, ce sont les champs électriques qui fonctionnent, qui génère le champ électromagnétique. Et puis enfin, il y a les antennes EH, les antennes... Alors, EH, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Je pense que c'est le E du électrique et le H du magnétique, voilà, qui sont très courtes. Voilà, ça c'est une antenne EH 14 mégas. Donc elles sont très très courtes. Il n'y a pas la dimension là, mais voilà, ça c'est une construction d'un web. Donc c'est tout petit quand même, et ça fait du 14 mégas. Donc ici on voit, il y a les deux bobines qui sont ici, et les condensateurs, c'est les trucs bleus. Donc c'est bobines condensateurs. Et ça ressemble un petit peu, même si c'est pas exactement pareil ici, aux boucles magnétiques, où on a ici une bobine, et ici un gros condensateur. Là, je vous fais le zoom pour que vous voyez ici le condensateur, voilà, avec des espacements d'armature là très important. Pourquoi? C'est qu'on va avoir des tensions qui sont très importantes. Plus vous allez avoir de puissance, plus ici votre les tensions vont être importantes. Voilà. Donc ici on voit bien ici. Et évidemment, le condensateur, il est commandé ici par un petit moteur qui permet comme ça d'ajuster la fréquence de résonance de l'ensemble. Et c'est alimenté par ici cette boucle d'alimentation où il y a le câble coaxial. Voilà, donc si vous voulez bricoler dans les antennes, il y a ce qu'il faut et pas de questions à l'examen, ou quasiment pas de questions à l'examen. Les questions justement... La longueur d'onde 16 gigas, donc là on sent bien qu'on va arriver, on va s'emmerder avec les multiples et sous-multiples. Donc 16 gigas, donc c'est 1600 mégas. Donc voilà, on va utiliser ce superbe tableau. Je sens bien que ça doit être déjà 18,75 m, pas possible. 1,87 m, pas possible. 1,8 ou 9 cm, ça me semble pas mal. Et là, on est du, je sais pas quoi, 0,1875 cm, donc une valeur très 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 petite, hein, beaucoup plus petite que le millimètre, et donc c'est pas bon. La seule solution, c'est celle-là, donc 1,875 cm, 2 cm, grosso modo. C'est pas trop con comme réponse. Je rappelle, 10 gigas, c'est 3 cm. Donc voilà. On n'est pas trop. C'est l'ordre d'idée. Quelle est la fréquence d'un signal de longueur d'onde 12,5 cm ? On va encore s'embêter avec les centimètres maintenant. Donc transformer les centimètres en mètres, donc 0,12. Et donc on fait 300 divisé par 0,12. Et ça ressemble pas trop mal aux 240 mégas. Non. Non, c'est plutôt 2 giga 4. Allez. Voilà, c'est avoir l'ordre d'idée. De mémoire, on va voir si je me suis pas planté. Et quel est le mode de propagation des ondes hectométriques? Donc quand je suis en onde hectométrique, c'est donc plutôt des ondes très, très longues, hein, c'est les petites ondes. Et petites ondes, c'est plutôt des ondes de sol, même si la nuit, au début de la nuit, on peut avoir des propagations en ondes réfléchies. Mais quand on parle de mode privé, de mode de propagation, c'est le mode privilégié. Et donc, ce sont donc des ondes de sol. Évidemment, propagation par onde stationnaire, ça ne veut rien dire. Voici les bonnes réponses. Alors, celle-là. Si on contacte l'Inde sur 10 mégas à 2h du matin, 2h du matin, on va supposer que c'est heure de Paris. Voilà. C'est pas dit, mais j'aurais bien aimé que ce soit précisé, parce que ces questions sont posées à l'identique aussi à Papeete et en Guadeloupe, où il y a des centres d'examen. Donc, voilà. Donc là, c'est tout au moins heure de France, peut-être pas de Paris, mais heure de France, continentale ou métropolitaine. Si on contacte l'Inde donc sur 10 mégas à 2h du matin, comment continuer à garder le contact le reste de la journée? En montant en fréquence puis en la diminuant, en descendant en fréquence puis en augmentant la puissance d'émission, en réduisant la puissance d'émission. Donc ça peut être soit l'une, soit l'autre. Moi je répondrai pas parce que ça c'est le genre de truc toujours tordu et j'ai l'explication après. Et voilà, je préfère ne pas répondre. Une station dont la PAR est de 6000 watts avec un émetteur délivrant une puissance de 15 watts, quel est le gain en décibels? Donc je fais 6000 watts divisé par 15, ça me fait 40. Et 40 correspond à 26 dB. Donc 40, ouais, donc c'est 16 dB, pardon, et non pas 26 dB. 16 dB. Ah ben non, 26 dB, ça fait 4000 alors? Ah non, 400. 6000 divisé par 15, 400. Ouh, je suis fatigué ce soir. Voilà, et pour la réponse, là, eh bien, faut augmenter la fréquence, puis la diminuer. Donc le parcours de l'onde commence par être ionisé par le soleil, ce qui permet d'utiliser les fréquences les plus élevées et plus performantes, car moins atténuées par la couche D, et plus on avance dans la journée, évidemment, plus le système s'inverse, comme on a vu tout à l'heure avec le Brésil notamment. Et donc, voilà. Pourquoi il faut commencer par augmenter la puissance, puis on la diminue à la suite. Un quart d'onde plan, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est en polarisation horizontale, n'est pas directif, un gain de 6 décibels par rapport à un doublet, à une longueur d'un demi-onde. Alors déjà, si c'est un quart d'onde, c'est pas une demi-onde. Le quart d'onde plan, en fait, c'est un quart d'onde, au lieu qu'il soit vertical, et ben il est horizontal. Je vois pas trop ce que c'est, enfin, je vois pas trop l'utilité, à part peut-être une antenne verticale qu'on met sur un balcon, donc qui devient du coup horizontal, mais voilà. Si la fréquence d'émission est légèrement supérieure à la fréquence de résonance d'un doublet demi-onde, il agit comme une résistance en série avec une bobine, une résistance en série avec un condensateur, le fil se comporte comme une résistance pure ou le fil ne rayonne pas, donc c'est l'un ou l'autre, et on va essayer de réfléchir quand on va voir la réponse. Alors, Donc le cardon de plan, c'est un cardon horizontal, et donc du coup il est en polarisation horizontale. Il est légèrement directif, mais il n'a pas un gain supérieur à 6 dB. Pourquoi directif? C'est qu'en fait, si vous le montez de manière plan, justement, il va plutôt émettre face à lui. Hein, en supposant que derrière, il y ait la surface, le plan de masse, donc l'immeuble ou ce que vous voulez. Cette question-là, elle est quand même relativement bizarre. Et quant à cette question-là, donc si la fréquence d'émission est supérieure à la fréquence de résonance, la longueur d'onde d'émission sera inférieure à la longueur d'onde, ce qui signifie que l'antenne est trop longue pour résonner correctement. Elle fonctionne donc dans sa partie inductive après la résonance du quart d'onde. Je reviens sur ce superbe schéma. Est-ce qu'il est ce truc-là ? Ici. En fait, si ma fréquence de résonance, elle est au-delà, la fréquence de résonance est légèrement supérieure à la fréquence la fréquence d'émission est légèrement supérieure à la fréquence de résonance. Ça veut dire qu'elle va se trouver plutôt ici, donc au-delà. Si bien que ici, je suis dans la partie ici ZL, donc réactive. Et donc, mon antenne va se comporter comme si c'était une résistance, ici, il y a marqué résistance, 36 ohms, plus ici, une partie réactive. Par exemple, ici, si je suis là, je vais avoir, 50 ohms. Donc, je vais avoir 36 ohms résistance pure, plus 50 ohms résistance, réactance positive. Donc je vais me retrouver dans le cas de mes déphasages qu'on avait vu quand on avait fait les bobines et les condensateurs. Association bobine-résistance. Et là, typiquement, je vais être dans ce cas-là. Donc je vais avoir ici un déphasage entre tension et intensité. Et du coup, la valeur ici, il faudra que j'utilise mon théorème de Pythagore pour calculer l'impédance de mon antenne. Et inversement, lorsque je suis ici sur une fréquence d'émission légèrement inférieure à la fréquence de résonance, je vais me retrouver ici, donc plutôt dans une partie capacitive. Ça, c'est très tordu, hein. Et on en arrive à la présentation rapidement maintenant du logiciel. Parce que là, ce que je vais vous faire, c'est une présentation du logiciel MMANA. Donc, c'est un logiciel qui permet de modéliser des antennes. C'est libre de droit, donc vous pouvez le télécharger comme vous voulez. Et fourni avec un ensemble assez conséquent d'antennes qui sont déjà paramétrées. Et vous allez trouver sur Internet des tas de gens qui ont fait leur antenne et qui l'ont déjà sauvegardée et qui est donc compatible avec MMANA. Et donc ça vous permet comme ça de voir comment ça va fonctionner. Alors je me mets sur MMANA. Alors, donc MMANA, le voilà. Voilà, donc ça c'est le logiciel. Alors je vous passe sur le fait de télécharger, hein, ça se télécharge et ça se décompresse sans trop de problèmes, ça fonctionne relativement bien. Donc là, je vais ouvrir un fichier, alors file open. Voilà, il y a plein de... Voilà, ça c'est des antennes que j'avais fait quand on avait fait un samedi technique. Donc je m'étais amusé à en faire quelques-unes. C'est pas celle-là qui m'intéresse du coup. Elles sont où? Alors là, maintenant, je suis coincé parce que j'ai été chercher celle-là. J'aurais dû faire File, Reopen. Voilà. Reopen. On va utiliser une que j'avais utilisée il y a quelque temps. Donc ça, c'est par exemple une antenne 14 mégas, 3 éléments. Voilà. Donc ici, vous avez l'élément rayonnant, et ici, mes deux éléments, le directeur et le réflecteur. Quand on regarde ici, alors, hop, voilà, on voit bien que celui-là est plus long que celui-là. Et voilà, on voit bien la manière dont ça... Alors, c'est pas, la différence n'est pas énorme. Hein. Et voilà, il y a une certaine distance ici entre les entre mes éléments. Ok, donc je peux ici tourner comme je veux. Voilà. Alors, géométrie, si je vais sur géométrie, donc ça c'est pour visualiser l'antenne. Si je vais sur géométrie, ben, ça me dit de quoi, comment est composée mon antenne. Donc, je donne les coordonnées de chaque fil. Ici, c'est le fil de mon brin rayonnant, et donc je dis ici la source, je dis c'est sur le fil 1, wire 1 center. Il faut le savoir. W1C, c'est que c'est l'alimentation sur le fil 1 et center au milieu. Voilà. Et ici, ce sont mes deux brins. Le brin ici qui doit être le brin directeur puisqu'il est plus court, et ici le brin réflecteur puisqu'il est plus long. Alors, on voit bien ici, il est plus court, il est plus long. Et ici, vous l'avez devant quand c'est positif et derrière quand c'est négatif. Alors, ici, vous avez les coordonnées donc, en X, Y et Z du début et de la fin. Et ici, c'est important aussi, enfin important, c'est le rayon du fil. Et on peut changer la langue, effectivement. Là, je n'ai pas téléchargé, parce que ça se télécharge en fait. Hein, donc je peux aussi aller télécharger la langue. Mais franchement, ça reste compréhensible. Hein, ce n'est pas de l'anglais de très haut de gamme. Donc on arrive à comprendre à peu près ce que l'on fait. Donc, par exemple, si je veux rallonger ici mon antenne, mon brin arrière, par exemple, là, ici, je me mets à 6 mètres et 7 mètres, soyons fous, et ici, 7 mètres, à 7 mètres, voilà, il faut faire entrer pour valider, et 7 mètres, entrée. Et vous allez voir, si je vais sur View, évidemment, il est beaucoup plus long. Donc ça va avoir changé les caractéristiques de mon antenne. Ça, c'est intéressant, ça vous permet, à partir d'une antenne qui est déjà connue, vous la modifiez à la marge et vous regardez ce que ça donne. Ça peut être intéressant. Je reopen mon fichier, parce que... Reopen celui-là, hop. Parce que celui-là, il marchait bien, donc je ne le modifie pas. Maintenant, je vais calculer. Je reprends mes notes, hein, parce que je me souviens plus de tout. Oui, donc là, vous avez... le X, le Y et le Z, hein, pour vous rappeler, donc le Z c'est ce qui part en hauteur, le Y c'est sur le côté, et le X c'est ce qui est devant, donc normalement c'est le côté directeur. Ok. Ensuite, après on va calculer différentes choses, dont le diagramme de rayonnement, et par exemple l'impédance. Et pour calculer, devinez, on clique sur « Calculette ». Voilà. On va définir la fréquence. là je sais que c'est une antenne 14 mégas, donc 14 mégas c'est parfait. Je la mets non pas en espace libre, ça c'est la Terre. Donc, soit c'est espace libre, je vais plutôt la mettre en sol réel, et sol réel, alors pas parfait, parce que je sais que mon sol n'est pas parfait, et si vous voulez mettre un sol réel, il faut que vous donniez plus d'informations sur votre sol. Donc le coefficient diélectrique et la conductivité de votre sol. Voilà. Vous savez peut-être pas, et dans ce cas-là, vous gardez le paramètre standard qui devra très bien aller. Ici, vous indiquez la hauteur de l'antenne. Donc, moi, je vais dans un premier temps la mettre à 10 mètres du sol. Et non pas la laisser ici. Alors là, c'est du tube d'aluminium. Je vais mettre ça en... le tube d'aluminium, ça me va très bien. Mais sinon, vous avez plusieurs, ici, des tubes, du fil de cuivre, des tubes de cuivre, du fer. Je ne sais même pas ce que c'est, ça. Des matériaux sans perte, ça n'existe pas trop. Mais je vais garder, mon tube d'aluminium, c'est très bien. Une fois que j'ai défini tout ça, je vais cliquer sur Start pour calculer. Voilà, donc il a calculé tout ça. No fatal error, c'est parfait. Et comment faire pour visualiser tout ça? Alors, cliquez sur All Points. Alors, cliquez sur Plot. Il est où, Plot? Plouf. Et donc voici, alors est-ce que c'est bien passé là? Je ne sais pas si c'est passé. Ça passe pas, évidemment. Est-ce qu'il faut que je passe sur... Voilà. Parce que ça ouvre un pop-up, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà le pop-up que ça ouvre. Et donc ici, on voit bien, ici, les diagrammes de rayonnement. Donc, d'un point de vue ici, vu du dessus, donc horizontal, et ici, vu de côté, donc vertical. Et on voit que cette antenne-là, elle vise à les 30 degrés à peu près, c'est entre 20 et 30 degrés. Voilà. Et elle vise vers l'avant. Et là, son lobe ici arrière qui est atténué. Ici, ce sont des décibels que vous avez. Donc, vous avez un lobe arrière qui est aux alentours de moins 22 dB. Donc, vous avez un rapport avant-arrière de 22 décibels, puisqu'ici, vous avez le 0 décibels. D'accord? Et ici, c'est pareil. Ici, vous avez ici des décibels qui sont là. Donc, vous avez. 3 décibels là de largeur ici, donc vous arrosez ici sur de 35, 10, 20, 30, 40, on va dire 45, de 45 degrés entre 20 et 45 degrés. Puisque en règle générale, on parle d'angle d'ouverture ici à 3 décibels. Au-delà, c'est que vous perdez de la puissance quand même. Donc, vous regardez ici la largeur à 3 décibels, et même chose ici pour voir l'angle d'ouverture de l'antenne d'un point de vue horizontal ou d'un point de vue vertical. Vous avez les champs verticaux et horizontaux, et vous avez le total ici, le total des champs, les champs verticaux et horizontaux, puisque vous avez des champs qui peuvent venir de manière horizontale ou verticale selon la polarisation de votre onde. Et donc l'antenne va récupérer les deux polarisations. Vous avez un truc qui est pas mal aussi. Alors, all points, ça fait quoi pour visualiser la bande passante? Ah oui, voilà. Si on clique ici sur all points, puisque j'ai défini ici la bande passante sur 400 kHz, eh bien, ça va me donner ici les différents diagrammes de rayonnement en fonction de la fréquence. Ici, vous avez les différentes fréquences, et ici, les différents diagrammes de rayonnement. Ce qui va vous permettre de définir comme ça votre ROS. Alors, le ROS, il n'est pas extraordinaire, hein, puisque là, l'antenne, elle n'est pas très bien centrée. Hein, puisqu'on voit bien, là, elle est un petit peu trop courte. On va y arriver. Quand elle est là, elle est trop courte. Donc si je la raccourcis, automatiquement, ma courbe, elle va se déplacer par là. Peut-être pas en arrivant jusqu'à un ROS identique. On verra la semaine prochaine ce que ça veut dire, hein, ce ROS. Mais bon, pour le moment... Et ici, vous avez l'impédance qui va être donc la résistance, ici, et ici, le JX, donc il est positif, hein, il est positif, ce qui veut dire que l'antenne, là, encore une fois, elle est positionnée au-delà de la fréquence de résonance. Donc, voilà. Alors, cette application, ça s'appelle MMANA. MMANA. Et vous trouvez ça sur Internet sans problème. Donc ici, vous avez donc selon la fréquence, la résistance et la réactance. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est à peu près tout, hein, c'est déjà pas mal. Ce que l'on va faire maintenant, une fois que vous avez bien en tête ce diagramme de rayonnement et notamment celui-là, c'est qu'on va changer la hauteur de l'antenne. Donc là, je ferme cette fenêtre, donc il n'y a plus rien chez vous. Je remets, que je vous montre, tac, MMANA, touc, voilà, je vous remontre et je repasserai quand le pop-up sera revenu, je change la hauteur, là je la mets maintenant à 20 mètres. Je relance le calcul, je clique sur plot, il n'y a plus rien qui s'affiche, mais je vais vous le mettre. Plot. Alors pourquoi il ne veut pas? Et pourquoi il ne veut plus le prendre, le plot? Ça, c'est une farce. Il ne veut plus me le prendre. Ce que je vais faire, je vais vous repasser sur le PDF. Parce que là, il voulait tout à l'heure, là, il ne veut plus. Je ne sais pas pourquoi. On va tenter une opération désespérée qui consiste à supprimer le truc. Capture d'écran, oui. Je la remets. Capture d'écran. Ok. Merdasse. C'est pas capture d'écran. C'est... on va y arriver, sinon je vais capture de fenêtre, ça sera mieux. Hop. Plot, le voilà. Ok. Bon, et après je reviendrai. Oula. Par contre, il faut que je tire dessus. Alors, transformer et tirer à l'écran. Tac. Oula, c'est un peu moche. Transformer. 1-1-1, adapter. adapté à l'écran. Voilà, c'est moins moche. On va y arriver. Donc là, vous voyez que mon lobe de rayonnement, là, s'est complètement transformé. Il y a deux lobes, finalement, qui se sont créés. Tout ça parce que je suis à 20 mètres, et 20 mètres, vous vous rappelez que c'est une antenne qui fonctionne sur 14 mégas, donc sur 20 mètres. Quand on est à la fréquence, finalement, on est à une fréquence qui est la fréquence de résonance de l'antenne. Donc on est à une longueur d'onde complète. Et là, on a tous les problèmes parce que on est à une longueur d'onde du sol. Et donc il y a des phénomènes de résonance qui se font. Et ces phénomènes de résonance, c'est typiquement ce qui se passe ici avec ces deux lobes qui sont bien séparés et qui sont très moches. Donc c'est pas mieux d'installer une antenne très haut. Idéalement, il faut qu'elle soit positionnée à une demi-longueur d'onde. C'est là où on a le meilleur rendu. Ou très loin du sol, comme par exemple avec une antenne 144, où là on peut être beaucoup plus au-dessus du sol, et donc le sol n'a plus d'incidence, puisque en 144 c'est une longueur d'onde 2 mètres, donc si on est en haut d'un pylône de 10 mètres, on est à 5 longueurs d'onde, et donc on aura très peu d'incidence du sol. Voilà, et donc si on fait, je vais vous rebasculer sur le PDF, et si on fait la même manip avec avec ici à 5 mètres, donc ici on est à 20 mètres, avec cette forme-là, vous remarquez ici qu'il n'y a pas grande différence entre les deux en ce qui concerne la directivité de l'antenne sur le champ horizontal. On vise toujours dans la même direction, à poil près. Il n'y a pas trop de différence. En revanche, la différence, là, elle est sur le champ vertical. Et quand on est à 5 mètres, eh bien, plus on se rapproche du sol ici, plus l'antenne ici devient vraiment omnidirectionnelle, tant sur le point de vue vertical que sur le point de vue horizontal. Et c'est une antenne qui est directive, hein. Je le rappelle. Donc à 5 mètres, voilà ce que ça donne. Donc voilà, quand vous faites le jeu des 7 erreurs, il y a pas mal de différences entre les deux. Dernier point, avant de terminer cette séance, j'avais fait lors d'un samedi technique confiné, ou reconfiné donc en novembre, une vidéo. Je vais vous passer le lien, ça dure une demi-heure à peu près, et j'avais essayé avec ce logiciel justement. Alors, j'essaye de vous copier le lien et de vous le mettre sur le chat. Voilà, sur le chat. Hop. Donc ce lien, ça va sur une vidéo YouTube où j'ai essayé puisque la semaine précédente, on avait un des membres du Radio Club, Fifou F1GMA, qui avait présenté une double loupe pour recevoir notamment pour le 144, donc une antenne simple avec trois bouts de fil qui marche relativement bien. Et j'ai essayé de la modéliser avec MMANA, ce que j'ai réussi à faire ici. Hein, qui montre bien comment fonctionne cette antenne, avec ici ce qu'on n'a pas vu, mais c'est la répartition des tensions et des intensités tout le long de l'antenne. Alors on ne l'a pas vu parce qu'on n'a pas eu le temps, mais on peut aussi le faire avec ce logiciel. Et en allant plus loin, c'est-à-dire que j'ai essayé de la modifier à la base pour en faire une antenne de réception typiquement de satellites défilants qu'adore Fifou, puisque c'est une antenne là. Alors je fais un zoom. J'ai juste modifié l'alimentation de l'antenne et on en arrive à avoir non pas ici une antenne de cette, ce qui m'intéresse moi c'est le diagramme vertical de cette manière-là, donc qui vise l'horizon, et si j'inverse ici le point d'alimentation, donc je le croise, ici j'arrive à avoir quelque chose qui n'a strictement rien à voir, c'est-à-dire que autant je n'avais strictement rien à la verticale, tout partait ici à l'horizontale, ici, au contraire, tout va se faire avec deux lobes de rayonnement, un à 35 degrés et un au zénith. Donc ça, c'est typiquement le genre d'antenne qu'on va utiliser pour la réception des satellites météo défilants. Voilà. Et avec un très peu de directivité d'un point de vue horizontal. Donc c'est très peu directif, alors que celle-là était beaucoup plus directive. Et c'est la même antenne, c'est juste le point d'alimentation qui a changé. Donc il y a plein de choses à faire, et on peut s'amuser. Et évidemment, après, là, ça évite surtout de couper du fil dans tous les sens, parce que là, on modélise, et une fois qu'on a bien tous les éléments, et qu'on a les dimensions, et ben on passe à la réalisation, et ça marche pas trop mal. Le seul point de cette antenne, c'est son impédance, qui est vraiment très basse, puisqu'elle est de 32 ohms, ce qui n'est pas extraordinaire. Ça ramène quand même pas mal de ROS, mais voilà, ça peut être intéressant quand même. Donc, si ça vous intéresse, ça dure à peu près une demi-heure la vidéo pour voir comment j'ai réussi à faire cette modélisation d'antenne. Sur ce, encore minuit 20, il est très tard. J'ai perdu pas trop de monde, pour une fois, 18 visionnages encore en cours. Et je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.